Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Mehdi et Sarah. Comment allez-vous ?
Eh ben ça va super, très heureuse d'être là. Et si je peux dire une petite chose ? J'introduis une petite chose. La dernière fois sur TikTok, on m'a dit « Eh, mais t'es la meuf de TFTC ».
Mais non.
Et je suis très heureuse d'être affiliée à ce programme. JB, merci à toi.
Oui, parce que Anaïd, Sarah est nouvelle dans l'équipe depuis deux podcasts.
Exactement. Okay.
Donc voilà.
Tu n'as pas encore la casquette ?
Non, j'ai pas encore la
casquette. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'envoie le merch. Mais il y a un nouveau merch qui arrive bientôt, c'est l'info que je vous donne.
Si je fais une bonne émission, est-ce que tu pourras m'enfiler une ?
Même si elle est catastrophique.
Nice.
je t'enlève. Mehdi, comment tu vas ?
Ah bah, je me sens bien entouré de 4 versos.
Oui, alors attendez, c'est le truc assez incroyable. On va vous dévoiler l'identité de l'invité du jour. Mais on a décelé qu'on était tous les 4 versos. Et on se sent bien entre versos, non ?
Grave.
Est-ce que ce serait pas le meilleur signe ?
Je suis d'accord.
Si.
Complètement. Ouais, tout le monde dit oui, ouais. Effectivement. Aujourd'hui, nous recevons Anaïd Rozam. Comment vas-tu ?
Je vais super bien.
Cool. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ?
Tout à fait. Alors, je m'appelle Anaïd, j'ai 27 ans, je suis comédienne. Je me suis fait connaître en postant sur Instagram des vidéos, des sortes de scénettes humoristiques qui m'ont permis de trouver un agent et de doucement commencer à faire du cinéma. Et
j'adore parce que c'était très précis. Ouais. En général, je pose cette question aux gens et les gens me disent
« Je sais pas qui je suis.
Qu'est-ce que je pourrais dire ?» Mais toi, tu sais très bien qui tu es.
Ouais.
Bravo. JB, c'est pas très bien se vendre.
Non, moi, je ne sais pas me vendre. Est-ce que vous savez vous vendre, globalement ?
Vendez-vous.
Non, mais pas du tout. Bah, lors de l'intro de mon podcast où j'étais en tant qu'invité, j'ai fait une intro, mais ridicule. J'ai carrément demandé à JB ce que je pouvais refaire, il m'a dit non.
Tu sais bien te vendre, toi, Anaïd, ou pas ?
Bah, la preuve en fait. Hein.
C'est vrai qu'elle s'est bien vendue. Mais dis, tu te vends pas, toi, t'es comme moi, tu sais pas trop te vendre, toi, non ?
Non, j'ai jamais.
Essaye de te vendre, vas-y, fais un exercice.
Ouais, vas-y, tiens, vends-toi.
Salut, je m'appelle Mehdi.
Non, bah voilà, tu vois, vous voyez, il y arrive pas,
c'est
catastrophique.
Un bon début, hein.
Aujourd'hui, si on est ensemble dans cet épisode, c'est parce qu'on va se pencher sur un film qui a marqué la décennie dernière, Midsommar. Sorti en 2019, et d'ailleurs ça me paraît assez fou parce que dans mon esprit c'était genre 2015-2016, Midsommar raconte l'histoire d'un jeune couple sur le point de se séparer, sauf que le soir où le petit ami décide de rompre, sa copine lui apprend qu'une partie de sa famille vient de se suicider. Se voyant obligé de rester avec elle, il est contraint quelques semaines plus tard de l'emmener avec lui en vacances en Suède avec des potes, dans ce qui est censé être un festival néo-païen, festival qui va s'avérer être en fait une secte. Réalisé par Ari Aster, à qui l'on doit également Hérédité ou encore Boys Afraid, Midsommar offre un premier rôle remarqué à l'actrice Florence Pugh, rôle qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public. Globalement, ce film a été un succès critique et a contribué à installer définitivement un nouveau genre de film, les films d'horreur A24. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Dans quelles conditions l'avez-vous vu pour la première fois ? Et je vais commencer avec Anaïd.
Alors, moi j'avais envie de rencontrer les films de Ari Aster et j'avais envie de me lancer dans Hérédité. On m'a dit, pas du tout, tu vas être traumatisé, tu vas plus vouloir regarder aucun de ses autres films parce que c'est un film vraiment d'horreur, quoi. Donc on m'a dit de commencer avec Midsommar et j'ai commencé ça, je crois, un dimanche à 15h, en mettant les mains sur les yeux de peur d'avoir peur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu une psychopathe parce que ça m'a complètement régalée. Mais de toute façon, mon top 10 de mes films préférés, si tu veux, c'est des films un peu de psychopathes, quoi. Donc,
comment tu l'expliques, ça, du coup ? T'as un petit début d'explication ou...
De pourquoi j'aime les films de psychopathes ?
Ouais.
Bah, alors, c'est un peu long. J'ai analysé ça il n'y a pas longtemps. C'est juste que moi, je recherche au cinéma, je pense, des émotions un peu interdites de voyeurisme. Très bizarre de dire ça, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, par exemple, un film comme Titanic, j'adore, ça me fait pleurer et tout. Mais j'adore ressentir le sentiment de malaise au cinéma. De malaise, d'étrangeté Et quand c'est fait avec art et beauté, et que c'est pas gratuit, je veux dire, ça me fait frétiller.
Bah c'est typiquement là le film, il a dû, enfin ça t'a plu forcément.
Ah oulala, oui,
ça remplit toutes les cases.
Ouais, mais c'est drôle parce qu'on t'a conseillé Midsommar plus qu'Hérédité, alors que moi je pense que c'est limite plus traumatisant Midsommar qu'Hérédité quoi.
Pas pour moi.
Ah ouais. Parce que Midsommar, il y a un truc un peu plus réel, quoi. Sarah, ton premier souvenir de Midsommar?
Moi, je l'ai vu au cinéma le jour de sa sortie. Je l'attendais, en fait, ce film. Et je me souviens d'être sortie en me disant « Mais qu'est-ce que je viens de voir, quoi ?» Et je ne savais pas trop si j'avais aimé ou pas. Et c'est quelques jours après, quand t'as le temps... J'aime pas dire ça, t'as digéré le truc, mais c'est réel, t'as digéré le truc. Et bah, j'ai vraiment kiffé ce film-là. Et ça m'a donné envie de m'intéresser aux autres... court-métrage notamment de ce réalisateur-là. Donc voilà, c'est un film que j'apprécie également beaucoup et je suis aussi très fan de Hérédité.
Mehdi.
Moi j'aime beaucoup les films d'horreur.
Oui, t'es un gros fan toi.
Je suis un gros fan. Je suis pas un gros fan, mais j'aime bien regarder les films d'horreur. Et donc depuis très longtemps, en fait, je cherchais un film à regarder nouveau qui me fasse peur. Donc j'allais sur Netflix, etc. Je tape film d'horreur moi sur le truc et puis je regarde ce qui se passe. Et il n'y avait rien qui me tentait, où je voyais des bouts, et puis je rentrais pas dans le délire.
Tu retrouvais pas le frisson.
Voilà. Et hier, donc, tu me parles de ce film.
Parce que Mehdi, il l'avait pas vu.
Je l'avais pas vu. Donc il m'en parle hier, et je me dis, bon, bah, je vais regarder, parce que de toute façon, c'est la thématique d'aujourd'hui, donc il faut bien que je me prépare.
Mehdi, c'est comme des devoirs pour lui, le podcast. Il est fait au dernier moment.
Et bah franchement, j'ai adoré.
Mais non.
Et pourtant, je suis très dur en
film d'horreur. C'est très rare que Mehdi adore des films.
Je suis très, très dur en film d'horreur. Et de toute façon, on va en parler un peu tous ensemble. Mais il y a plein de choses, effectivement, qui remplissent beaucoup de cases. Le côté mystérieux, l'histoire aussi.
Vraiment violent aussi.
Ouais, il y a ce côté-là, mais pas trop. Tu vois,
Vous trouvez que c'est un film d'horreur?
Non, c'est pas un film d'horreur.
C'est pas un film d'horreur.
Alors justement, il y a un truc qui est marrant.
Il y a le frisson, il y a des émotions qui... sont importantes dans ce genre de film que tu reçois et je suis comme toi.
Mais c'est drôle parce que je suis allé sur Wikipédia et il classe ce film en tant que horror folk. Ça m'a un peu énervé d'ailleurs. Genre, n'importe quoi. Genre, ils ont inventé vraiment un truc horror folk. C'est vraiment genre, n'importe quoi. Et moi, en fait, je l'ai vu au cinéma. J'avais en mémoire la beauté du film et la violence du film. Donc, je l'avais vu en 2019 quand il est sorti au cinéma. Je me souviens aussi qu'il y avait une énorme tension dans la salle. Ça, je m'en souviens. Les gens étaient assez horrifiés. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était les couleurs et la fameuse scène violente du premier sacrifice où les personnes âgées sautent sur le sol. Ça, je me souviens que la salle, elle était là, genre waouh, il y avait vraiment un truc un peu glaçant dans la salle. Et j'avais pas revu Midsommar depuis. Donc vraiment, je gardais en image les costumes de fleurs et la scène du sacrifice. Je l'ai revu hier soir, il y a beaucoup plus évidemment. J'étais vraiment marqué par déjà la beauté des plans, les couleurs, par la mise en scène aussi tout en mouvement. Et ce qui m'a vraiment marqué en le revoyant, c'est de me dire que et c'est assez rare pour le noter, c'est un film d'horreur qui quand même fait peur alors que tout se passe en plein jour, pratiquement tout le temps. Il y a très peu de scènes
avec
de nuit
de
en fait.
Fleurs.
C'est ça, tu vois, il y a des fleurs, ça se passe en journée. Très souvent les films d'horreur c'est la nuit, et ils utilisent ça vraiment beaucoup pour en ressort. Et là ça fait peur alors que c'est un film en journée. Et aussi un truc que j'avais oublié, c'était le moment où ça switch entre l'hallucination et le réel. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de caméra... Enfin, dans l'image, il y a des ondulations, on voit les arbres derrière onduler, les fleurs ondulent.
Et
en fait, il y a un truc où d'un coup, le réel ne devient plus vraiment le réel et on vire à l'hallucination comme tous les persos du film. Et ça, j'ai trouvé ça assez brillant. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, Anaïd?
Allez.
Alors, moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais il y a quand même un peu plus de temps, il y a quelques mois. Et je me souviens d'une scène, je crois que c'est vers la fin, où on sent que le personnage principal, la jeune fille, commence à rentrer de plus en plus, commence à accepter, en fait. Je crois que son copain est dans la chambre avec toutes les femmes. Et en fait, elle n'a plus aucun espoir. Et du coup, il y a une sorte de switch qui se passe où... elle accepte lentement, de façon enivrée, sa vie ici, en fait.
Exact.
C'est comme un inversement et vraiment, elle lâche psychologiquement l'affaire. Et je l'ai vraiment ressenti, ça. Je trouve que c'est très, très bien filmé, rien que par une expression de visage.
Ouais, et puis il y a ce truc où, en fait, on est... En fait, finalement, le public, c'est Florence Pugh, finalement. Et on se met à la place de ce personnage qui se retrouve là, comme ça, alors qu'elle n'a pas envie d'être là. nous aussi, on n'a pas envie d'être là quand on regarde le film. Et il y a ce truc où on devient un peu perdu comme elle à un moment donné. On sait pas, on se sent, en fait, il y a un truc où on se sent pris au piège. Moi, je me souviens qu'il y a un personnage qui m'avait marqué dans le film. C'était le personnage de l'ami suédois, parce que c'est une bande d'amis à la base qui partent là-bas. Et c'est l'ami suédois qui dit « Venez en Suède, il y a un truc là-bas, une sorte de festival, une sorte de fête comme ça, etc. » Cet ami suédois est très rationnel quand il est sur le sol américain. C'est-à-dire qu'il est avec des potes américains, il vit à l'américaine, etc. Et quand il se retrouve là-bas, il est en habit traditionnel. On voit qu'il commence à se passer des trucs un peu chelous. Et ce personnage, il m'a marqué parce qu'il y a un côté où t'as envie de lui dire « Gars, vas-y, redeviens normal, redeviens comme aux States, quoi. » Tu vois, genre, là, il se passe des trucs vraiment chelous, quoi. Et j'aime bien ce basculement entre la rationalité et la non-rationalité dans le film. C'est un des trucs les plus effrayants, je trouve, à l'intérieur de Midsommar. Mehdi, il y a une scène que t'as marqué, toi, plus qu'une autre ?
Moi, c'est ce que tu disais. Comment s'appelle l'actrice ?
Florence Pugh.
Bah, j'étais hypnotisé par cette fille. Les traits de son visage, de toute façon, elle est très, très jolie.
Grave.
T'avais jamais vu cette actrice ?
Non, je l'avais jamais vue.
Elle est dans Oppenheimer, figure-toi.
Ah, ok, ouais. D'accord.
Et elle est dans le nouveau Dune aussi.
Ouais.
Ok, bon, bah, ouais, arrêtez de m'humilier avec tous les gros films.
Wake up.
Elle est aussi jolie dans ces films-là ?
Oui, dans Dune, elle est magnifique. Dans Dune 2, elle est magnifique.
Ouais. Elle capte l'écran, je trouve. Et puis, avec ses beaux plans, avec elle au milieu et tout ça, j'ai trouvé ça... Ouais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé amoureux d'une fille.
Il est tombé sous le charme de Florence Pugh, on dit.
Apparemment.
Sarah.
Moi, tu en parlais tout à l'heure, c'est la scène du sacrifice là, des deux personnes qui arrivent à leur fin de vie, entre guillemets. Et c'est tellement explicite, genre je ne m'attendais pas à... Parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément horrifique parce qu'il n'y a pas de la violence, ce n'est pas ensanglanté finalement. Mais à ce moment-là, ça arrive, tu n'es pas prêt à cette scène. Et là, c'est vraiment... tu es face à la violence extrême, quoi. Et deux fois.
En plus, ce qui fait flipper, c'est que tu dis, bah, ça peut exister ce truc-là.
Oui,
en fait.
Mais évidemment que
mais
ça existe.
Mais tu sais qu'apparemment, c'est inspiré de rites
exactement.
Européens, dont des rites allemands où il y avait des espèces de sacrifices. Après, c'est parfois des rumeurs, donc je sais pas trop, mais il y a beaucoup de rites païens qui ont été inspirés.
En fait, ils sont appuyés sur des rumeurs de cultes très souvent suédois du 15e siècle. Donc c'est pas tout n'est pas vrai, mais ils se sont inspirés de vieux cultes suédois. Dans la légende, quoi. Moi, il y a une scène qui m'a marqué hier en revoyant le film, c'est la scène de fin. Bon, je pense qu'on peut un peu spoil parce que l'idée, c'est de voir Midsommar avant d'écouter le podcast. Mais il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle du dernier sacrifice où ils mettent tous les cadavres dans l'espèce de maison en V, comme ça. Et à l'intérieur de cette petite maison, avec tous les cadavres, il y a deux personnes valides qui entrent pour un sacrifice. Et en fait, on leur donne une sorte de petite pâte à manger, comme ça, et les types leur disent... voilà, tu vas avoir aucune douleur grâce à cette petite patte et tout machin. Et donc ils sont là comme ça, puis ils sont complètement hypnotisés par cette secte. Et puis ils commencent à mettre le feu à la maison. Là, les flammes commencent à jaillir dans la maison. Et puis les deux se regardent. Mais c'est hyper bien joué parce qu'ils se regardent avec un regard du genre « Attends, est-ce que c'était une bonne idée dans cette secte finalement ?» Tu sais, tout le côté mystique disparaît d'un coup et en fait, t'es rattrapé par la réalité. Mmh. Et là, les flammes commencent à consumer un des deux gars et le gars commence à crier de douleur. Et à son cri de douleur, on sent qu'il y a un côté... Ok, en fait, tout était faux, quoi.
Ouais.
Tout ce truc de secte était faux. Et ça, je trouve ça vraiment terrifiant, quoi. Il y avait une autre scène qui m'a marqué aussi, c'est quand... parce qu'en fait, il y a le groupe d'amis, mais il y a un autre couple, si vous vous souvenez, il y a un autre couple d'Américains, ou je sais plus, peut-être une autre nationalité, qui sont là, et il y a un des deux qui se barre à un moment donné, un des mecs, et la nana est en mode, ben... il me l'aurait dit s'il était parti, quoi, tu vois. Et là, en fait, à ce moment-là, on comprend que le piège se referme sur eux, et ça devient un peu terrifiant. Et il y a aussi ce côté où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour se barrer? Mais il n'y a pas d'échappatoire, en fait, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, c'est juste la nature au milieu de nulle part. Et ce côté, être enfermé au milieu d'un espace très libéré et très ouvert, je trouve que c'est assez, assez terrifiant. Mais ouais, en fait, moi je me souviens de ce film comme un film qui réinventait l'horreur, mais qui apportait quelque chose de nouveau à l'horreur. Je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, Anaïd.
Je voulais dire, il y a une autre scène qui m'a marqué, ça me revient là. C'est la scène où Florence pleure et t'as toutes les jeunes filles qui se mettent à quatre pattes comme elle et qui l'imitent pour ressentir la douleur avec elle. Et en fait, tu vois, quand tu vois cette scène, tu te dis, mais... Enfin, je suis peut-être super influençable et il ne faut pas qu'une secte m'approche, mais je me dis, mais en fait, en vrai, ça fait sens. Enfin, ça peut être une sorte de tradition de ressentir la douleur. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a mis vraiment, et c'est ce que tu disais, on est vraiment avec Florence, quoi. Et petit à petit toutes ces choses étranges. À la fin du film, tu te dis, bah ouais, pourquoi pas mourir à 70 ans, pourquoi pas quand l'autre souffle ressentir, quand l'autre souffre, pardon, ressentir la douleur avec lui, enfin, en miroir, tu vois. Mais cette scène, elle m'a vraiment marquée parce que tu pourrais te dire, avec, dans un autre film, avec un autre réalisateur, ça pourrait faire un peu too much, un peu trop troupe de théâtre. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement bien joué et extrêmement compréhensible et plausible, tu vois.
Mais comme toi, moi j'avais envie aussi de me faire happer par cette secte.
Mais vous êtes sérieux, moi je suis choquée d'entendre ça.
Par les décors, par l'ambiance.
Ça, c'est t'as été happé par Clorpion, toi, c'est surtout ça.
En fait, on a lancé le film en même temps hier soir avec Mehdi, on s'envoyait un peu des textos. Et Mehdi me disait, on se sent bien dans cette secte.
Ah, il était à l'aise
dedans.
Leur designer est pas mal.
je disais juste avant, ce film est très marqué film d'horreur A24, A24 en français, pour ceux qui l'ignorent, une société de production et de distribution qui bouscule l'industrie depuis quelques années. Et tout ça, on le doit pas mal au réalisateur Ari Aster, qui est devenu par la force des choses un de leurs réalisateurs phares. Mais quel est son parcours, Sarah? D'où vient-il, Ari Aster?
Alors, j'ai fait mes petites recherches. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais je ne connaissais pas son parcours, donc j'étais contente de faire ces petites recherches-là. Donc, Ari Aster, c'est donc un réalisateur, scénariste et producteur américain de 37 ans, qui est né à New York, d'un père musicien et d'une mère poète. Durant son enfance, il bouge pas mal entre New York, l'Angleterre et le Nouveau-Mexique, mais où qu'il aille, il conserve toujours une même passion, celle de se rendre dans des vidéoclubs où il passe des heures et des heures à choisir et découvrir des films. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il collectionne les Blu-ray parce qu'il kiffe le fait de posséder les films physiquement.
J'aime ça.
Et en tout cas, très vite adolescent, il va tomber amoureux d'un genre en particulier, donc les films d'horreur. Une passion qui va se développer après le visionnage de nombreux films assez dérangeants comme Blue Velvet de David Lynch, de Rosemary Baby de Polanski, La Rivière de Tsai Ming-liang, de 29 Palms de Bruno Dumont, bref, des films qui appartiennent tous à des genres différents. Il y a du drame, de l'épouvante, du thriller. Mais ils ont tous un point commun, celui de miser sur des scénarios et des scènes explicites empreintes de pas mal de violence et de symbolique. Des films assez tordus finalement qui vont clairement donc inspirer et influencer le style d'Ari Aster qu'on lui connaît aujourd'hui. Un style qui va se manifester notamment dans les œuvres comme Midsommar dont on parle aujourd'hui ou bien Hérédité. Mais il faut savoir qu'avant de faire décoller sa carrière en 2018 avec Hérédité justement, qui pour moi, ça dit en passant, je te le disais tout à l'heure, est un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, Ari Aster a commencé avec pas mal de courts-métrages. Dès son adolescence, il écrit des scénarios. Et puis finalement, c'est quand il étudie le cinéma à l'université de Santa Fe qu'il va réaliser son tout premier court-métrage, Tale of Two Teams, un film grâce auquel il va décrocher en 2010 une bourse pour le programme d'études supérieures en réalisation au conservatoire de l'AFI, l'American Film Institute. Donc à ce moment-là, tous les feux sont au vert, c'est cool. Il continue de réaliser pas mal de courts-métrages pendant ses études, dont le très remarqué et très perturbant The Strange Thing About the Johnsons, sorti en 2011, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, si ça vous intéresse. Je vous préviens, accrochez-vous.
Tu l'as vu?
Oui.
Ça raconte quoi?
Ben justement, j'ai pas trop envie de vous dire, parce que je pense que c'est cool si vous le découvriez, vous le découvrez pardon, par vous-même. C'est le mieux, à mon avis. Et donc, en fait, ce court-métrage, c'est le film de thèse d'Ari Aster, qui a ensuite été projeté dans pas mal de festivals ciné, avant de leaker sur Internet en novembre 2011. Et déjà à l'époque, sur YouTube, les gens sont devenus fous en voyant ce court-métrage, qui est très vite devenu viral. Et ce qui est marrant, c'est d'ailleurs qu'il y a 3 mois à peu près, le film est redevenu viral, mais cette fois sur TikTok. Il y a pas mal de gens qui ont découvert pour la première fois ce court-métrage, donc 13 ans en fait après la première publication. Et ça marche toujours autant, ça dérange toujours autant. Donc, tu me disais de vous raconter un peu le truc. Je peux juste vous dire que les thématiques, c'est comme dans Munchausen, un autre de ses courts-métrages, ça tourne autour de la famille et du traumatisme, des thématiques récurrentes en fait au travail d'Ari Aster.
Là, c'est le début de Midsommar, le traumatisme
voilà,
et la famille.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est justement grâce à ces deux courts-métrages qu'Ari Aster a été repéré, comme tu parlais de A24, c'est l'occasion de reparler ici aussi. Il a été repéré donc grâce à ces deux courts-métrages par la société de production, qui a ensuite produit en 2018 pour son tout premier long-métrage Hérédité que je mentionnais tout à l'heure. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film, c'est un film avec Toni Collette dans le rôle d'une mère qui fait face aux secrets horrifiques que cache sa famille.
Ouais, d'ailleurs, de ce film est né aussi un même culte de Toni Collette qui est complètement apeuré.
Ouais, je sais pas si tu le connais celui-ci.
Ça a floppé mon intervention complètement. Non, mais tu te rappelles de son visage terrifié
bien
à Toni Collette
oui,
dans
oui,
le film
oui,
c'est
oui.
Assez incroyable. Je me souviens quand j'avais vu ça à l'époque, je me suis dit waouh, comment on peut jouer ça, c'est trop bien quoi. Et d'ailleurs, question pour toi Anaïde, quel est le sentiment le plus compliqué à jouer en tant qu'acteur?
Alors, je sais pas si c'est un sentiment, mais la surprise, c'est très dur à jouer.
La surprise, c'est dur à jouer. Bah, déjà, la surprise, c'est dur à jouer dans la vraie vie quand tu reçois un cadeau qui te plaît pas.
Grave, c'est vrai ça.
Oui.
Donc,
non, mais là, ouais. Alors, la surprise pour un cadeau, non, moi j'arrive à la jouer.
Ouais, t'arrives à la jouer en vrai, toi.
Non, c'est plus la surprise assez. Assez technique, genre être surpris de ce que quelqu'un va te balancer à la gueule,
okay,
et ça peut être agréable ou pas, tu vois. Mais jouer, c'est. Oh.
Parce qu'il y a plusieurs formes de surprises à jouer. C'est surprise horrifiée, la surprise joyeuse, en fait. Ok, d'accord.
Et alors, comment tu travailles ça?
J'essaye de faire avec les tripes. Écoute, ça dépend. En vrai, en effet, il y a plusieurs sortes de surprises. Et après, je joue pas des personnages que surprises. Enfin, je joue pas que des personnages surprises. Ça va.
C'est
pour
ça qu'on l'appelle.
Et attends, juste, il a 37 ans, Ari Aster?
38.
Oh, je suis choquée.
C'est fou, hein.
Moi, je croyais qu'il avait 60 ans.
Ouais, non, mais non, pas du tout.
Moi, je suis toujours ébattée par ces réalisateurs comme Xavier Dolan qui font des films.
Ou comme le réalisateur de Babylone.
Oui, voilà. Ouais. Genre, ils sont tous dans la vingtaine, trentaine, et ils font déjà des films vraiment importants, quoi. C'est incroyable.
Complètement.
C'est fou.
Et j'allais juste rajouter que donc ces trois longs métrages, Ari Aster, Midsommar, Hérédité et Beau Is Afraid, tu en parlais tout à l'heure, avec Joaquin Phoenix, qui est sorti en 2023. Mais surtout, Ari Aster, c'est l'un des nouveaux visages, donc un nouveau visage phare du cinéma et de l'horreur, et ça en seulement trois films, justement.
Ouais, ça, c'est incroyable. Justement, Anaïde, en fait, quand je lui ai demandé de me proposer des films pour organiser ce podcast, elle avait aussi envie de parler de Beau Is Afraid. Pourquoi cet amour pour Beau Is Afraid?
Alors, Beau Is Afraid, je l'ai découvert, franchement, il y a quelques semaines. Et alors, je ne dirais pas que c'est mon préféré des trois. Au contraire, je pense que mon préféré, c'est Midsommar, puis Hérédité, et puis Beau Is Afraid. Mais je ne sais pas pourquoi Beau Is Afraid, il m'a laissé une trace, en fait. Je trouve que c'est très rare qu'on voit au cinéma l'amour destructeur et manipulateur d'une mère face à un fils adulte. Et aussi de voir Joaquin Phoenix... qu'on connaît pour des grands rôles assez étranges, puis assez, même à fort caractère, là on le voit complètement démuni, enfin, il m'a complètement déchiré le cœur. Et en fait ça a confirmé la thématique des films d'Ari Aster et cette thématique que j'aime qui est les carcans, l'enfermement psychologique que peut avoir le groupe, la famille. Et quoi d'autre? Et puis non, et puis les couleurs, comme dans tous ces films, la mise en scène, la caméra qui bouge, et puis la voix de Joaquin Phoenix, qui me fait mal aux oreilles tellement elle est triste, quoi. Et, voilà.
Mais t'as raison de parler des images et tout, parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Ari Aster, c'est qu'il y a un vrai travail dans la construction des plans, mais en même temps, c'est pas comme Wes Anderson où on va se dire « Ah ok, ça c'est les plans d'Ari Aster,
ouais,
quoi. »
Ouais, de ouf, ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit les films d'Ari Aster, on se dit « C'est hyper bien mis en scène. »
Complètement.
Sans pour autant qu'on devine une patte, même si elle est un peu là. Enfin, il y a un truc un peu hybride dans son cinéma que je trouve trop cool. Moi, j'adore les histoires de parcours. Du coup, j'ai trois questions pour toi, Anaïde. La première étant, est-ce que tu te souviens du premier jour où tu as voulu être actrice?
Je pense qu'au début, on me l'a dit. On m'a dit beaucoup. J'étais fille unique du côté de ma mère. On m'a dit, tu devrais être actrice. Et puis,
quand
tu étais
enfant, ado, tout ça?
Comment?
Quand tu étais enfant, ado
Plutôt enfant.
Okay.
Je me mettais beaucoup en scène. J'étais très seule quand j'étais chez ma mère, parce que j'étais enfant unique. Donc, puis ma mère était complètement fan de moi. Donc
et alors, quand tu te mettais en scène, tu faisais quoi, par exemple? Parce que tu sais, on entend souvent des histoires, genre, je prenais ma bouteille de shampoing, puis tu sais, je parlais devant le miroir, ou ce genre de trucs.
Non, en fait, je mettais en scène mes nounours. En fait, il y avait notamment en fait, une pièce de théâtre qui s'appelait Alice et la baguette magique. Et j'avais fait complètement une obsession sur cette pièce. Je suis allée la voir, je pense, sincèrement, 40 fois. Et en fait, j'allais la voir avec ma mère, je retournais à la maison et je demandais à ma mère de jouer le prince avec mon nounours, machin et tout, et on faisait des scènes, voilà. Donc j'étais metteuse en scène à 5 ans, je crois. Et puis, je pense qu'après, je voulais être une star. Je voulais pas être actrice.
Il y a tout ce passage où les gens veulent être des stars.
Voilà. Et puis, en fait, j'ai vraiment voulu être actrice dans le sens dans lequel je l'entends aujourd'hui, quand j'ai commencé en vrai mes cours de théâtre.
Tu m'as rappelé des souvenirs. Enfant unique, moi j'adorais jouer tout seul.
Bah ouais.
C'est super. Hein.
C'est un truc de verso, ça, non?
T'étais pas fille unique.
Non, mais j'aimais bien jouer toute seule.
T'aimais jouer tout seul. Tu te fais plein de scénarios avec tes bonhommes.
Bah après, tu sais, moi j'avais une sœur, mais j'aimais jouer tout seul aussi, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est tous les enfants,
ouais.
Oui, donc c'est de là que tu t'es dit pourquoi pas. Très bien. La deuxième question, c'est est-ce que tu te souviens d'un film qui t'a donné envie d'être actrice? Genre, en gros, tu transfères un peu un truc sur une actrice en disant « Waouh, j'aimerais avoir cette vie.
» Ouais, en vrai, Selena Gomez. quand j'étais petite. Non, les sorciers de Waverly Place, c'est mes premières images, c'est les trucs que je regardais à la télé à la pause déjeuner. Puis, enfin, voilà, c'est pas très cinéphile, mais honnêtement, je pense que c'est Selena Gomez dans les trucs de Disney Channel, quoi.
Après, peu sont les gens qui commencent avec du Bergman à 11 ans, tu sais.
Oui,
tu vois, il y a un peu ce truc où, évidemment, on commence tout ça peu.
En premier degré, je pense que c'est ça.
Ouais. Et en vrai, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as joué la comédie devant une caméra, peu importe la valeur économique de la caméra ? Moi, je me souviens qu'avec Mehdi, par exemple, on se filmait quand on était ado, il y avait ce truc où il fallait jouer la comédie devant la caméra. Quoi. Moi, j'ai un vrai souvenir de ça.
Est-ce que toi, t'as un souvenir ? Comme personnage.
Bah, très souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que, et je l'ai souvent remarqué autour des gens qui sont dans ce milieu, c'est que très souvent, on reproduit des scènes de films ou alors d'humoristes, ou nous, c'est ce qu'on faisait avec Mehdi. Après, on jouait à la comédie sur d'autres trucs. On a fait une sorte de vieux, de faux films d'horreur, tu t'en souviens ?
On avait un duo donc nous, c'était les Osés.
Les Osés.
C'est pas la peine de le dire, ça.
Mais c'était, mais c'était la mode à l'époque de faire des noms comme ça un peu
religieux. Ah, vous vous connaissez depuis super longtemps, en fait.
Depuis la cinquième.
Ah ouais, c'est beau.
Ouais, voilà. Mais oui, donc on jouait ça. Toi, tu jouais quoi ? Un des premiers trucs que tu as joué devant une caméra comme ça ?
Bah, en fait, moi, j'ai retrouvé il y a pas longtemps une cassette de. Enfin, un DVD de vidéo de moi. Et en fait, ma mère me filmait beaucoup, en fait. Et qu'est-ce que je faisais ? Bah, je faisais la meuf fâchée, je faisais l'adulte. Je vous fais pas rêver, là. Hein. non, mais...
non, c'est bien.
Oui, je jouais des rôles, je faisais la secrétaire au téléphone. C'était
tu les as encore, ces vidéos ?
Ouais, mais je vais pas vous les montrer. Hein.
Non,
peut-être un jour.
Non, mais attends, ce serait cool de les montrer un jour, ces vidéos, c'est trop bien.
Non, mais quand, ouais, dans mes mémoires, oui, dans mes archives.
En plus, j'imagine que c'est mignon, j'imagine.
Oui, c'est très mignon.
Bah, tu vois. alors, Midsommar, globalement, aborde les sectes. Du coup, ça m'a donné envie de vous faire un petit top 5 des meilleurs films de sectes que j'ai vus dans ma vie. Peut-être que ça vous donnera envie d'en regarder au moins un. Ce serait une petite victoire. À la cinquième place, Le Village de Night Shyamalan, film sorti en 2004 avec Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix et Adrian Brody. Film qui raconte l'histoire d'une petite communauté isolée au 19e siècle qui vit dans une crainte que des créatures maléfiques peuplent les bois environnants. Perso, à l'époque, j'avais adoré ce film, mais le simple fait d'en parler dans ce classement, c'est peut-être un peu un spoil. Donc, j'étais en galère d'en parler. Est-ce que vous avez déjà vu Le Village de Night Shyamalan ?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Non, mais il y a Joaquin Phoenix.
Exactement.
Incroyable. Non, je l'ai pas vu.
Tu l'as pas vu ?
Non.
Tu adorerais ce film, je pense.
Oui, je pense aussi.
Très bon.
Mais je vais regarder tous les films que tu vas dire là. J'adore
les films
sur les sectes.
On l'avait vu ensemble, celui-là, il me semble.
Exactement. Mais très bon film, Le Village.
Il est un peu dans effectivement le même délire que le film là.
Ouais, mais il faut pas trop en parler parce que sinon ça spoil. Mais vraiment, Le Village. Si tu regardes ce film, je pense que
tu vas adorer celui-là aussi.
À la quatrième place, on a The Master de P.T. Anderson, film sorti en 2012 avec Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix. Décidément, c'est ce que j'ai appris en écrivant ça, ce qui fait que des films de secte, pas de fou. Film qui cette fois raconte l'histoire d'un ancien vétéran de guerre, violent et alcoolique, qui va rencontrer un charismatique leader d'une secte nommée La Cause. Pareil, vous avez déjà vu ce film, The Master,
non,
de Pete Anderson ?
Par contre, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, Joaquin Phoenix, il a grandi dans une secte.
Quoi ?
Ah, alors,
vrai,
je sais plus, c'était une...
Oui,
je crois que c'est ça,
ça,
ouais.
Hein, je
oui,
crois. Et après, il a réussi à en partir, etc.
Non, je crois que c'est ses parents qui étaient...
C'est secte ou hippie, mais je crois qu'il y a un truc...
Non, je crois que ses parents étaient dans une secte, effectivement. Il y avait un délire comme ça.
C'est possible que c'est un lien avec ça.
C'est vrai que c'est drôle.
Ah bah oui, forcément.
Mais c'est vrai que j'en avais parlé un jour, et en fait, il est dans une secte, et il fait deux films sur des sectes, c'est assez drôle. Il faudrait creuser ce truc, c'est trop marrant.
Bah là, ça fait trois. Ah non, pardon, Boys Afraid, c'est pas une secte.
Oui,
non, non, ouais.
Mais en tout cas,
oui.
Le sujet est là. Ah ouais. À la troisième place, Hors d'être de Carl Dreyer, film sorti en 1955, l'histoire d'un fermier danois qui refuse à son fils la permission d'épouser la fille d'un chef d'une secte religieuse différente de la sienne. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le cinéma de Carl Dreyer, je ne peux que vous le conseiller. Il a réalisé des films qui ont compté dans l'histoire du cinéma, comme La Passion de Jeanne d'Arc ou encore Vampire avec un Y. Est-ce que quelqu'un a vu Hors d'être ?
Non.
Celui-là, il est assez technique, mais vraiment, c'est un très très bon film. À la deuxième place, alors ça c'est fou, à la deuxième place, Jesus Camp, sorti en 2006. Et je l'ai placé à la deuxième place car ça nous ancre dans le réel cette fois, puisque c'est un documentaire. Documentaire qui m'avait profondément marqué quand je l'avais vu au ciné à l'époque, puisqu'il suit aux États-Unis un rassemblement d'enfants évangéliques néo-charismatiques censés avoir des dons prophétiques qui leur permettraient de reprendre les États-Unis pour le Christ. C'est technique. C'est vraiment terrifiant car réel, et je vous conseille vraiment de regarder ça si vous ne l'avez jamais vu. Je me dis que vous n'avez pas vu Jesus Camp du coup.
Ah
mais
non, mais ça me donne bien envie.
Mais en fait, c'est fou. En fait, c'est vraiment un truc où les enfants sont possédés devant la caméra. C'est des images réelles.
Plus
et en
quoi,
gros, il y a des gens qui sont là en mode c'est lui qui va sauver les États-Unis. Puis tu sais, ils ont juste 7 ans, 8 ans et tout. Tu vois, et c'est le film, il est incroyable. Documentaire incroyable. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque, je m'en souviens. Et enfin, à la première place, et Sarah en avait parlé dans un précédent épisode, de Wickerman de Robin Hardy, film sorti en 1973 et qui suit l'enquête d'un policier écossais qui se rend sur une petite île afin d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Une fois sur l'île, il constatera progressivement que tout y est étrange. Pour moi, le plus grand film abordant ce sujet, qui est les sectes. T'as déjà vu The Wickerman ? Vraiment,
non,
je te conseille. Il est trop bien ce film.
Okay.
Il est assez terrifiant. Et enfin, mention spéciale hors classement pour Indiana Jones et le Temple Maudit, le deuxième sorti en 84, qui, on a tendance à l'oublier, aborde aussi le sujet des sectes.
Ouais, c'est vrai.
Dans Indiana Jones 2, c'est une secte à la fin. Et en parlant de sectes, toujours, Mehdi, tu nous as préparé un petit jeu, apparemment. Est-ce que t'aimes bien les jeux, Anaïde ?
J'adore les jeux.
Ah, elle adore les jeux.
Et les jeux sur les sectes.
Je suis trop contente. Enfin, ouais.
Donc, Mehdi nous a préparé un petit jeu sur les sectes. Mehdi, je te laisse expliquer le jeu. Moi, je connais les réponses, donc je ne vais pas jouer. Donc, c'est Anaïde et Sarah qui vont jouer ensemble. Okay. Explique le concept, Mehdi.
Non, le concept est tout simple. Hein. Je vais vous citer des... Comment on peut dire ça ?
Des sectes qui ont existé.
Qui ont existé.
Et d'autres qu'on a inventées.
Okay. Il va falloir essayer de trouver le...
Quelle est la vraie secte, quelle est la fausse secte ?
On est l'une contre l'autre ou on est en collectif ?
Non, j'aime la compétition. Ça va être une compétition avec des points, pourquoi pas.
Let's go.
Bon, je prends ma voix de sectomane.
Secte dans laquelle il faut vivre à poil et se nourrir exclusivement de notre coco.
Non, c'est une voix
non, on doit dire vrai ou pas.
C'est une voix de gourou, ça.
J'en fais une autre voix.
Jean-Luc Reichmann plutôt. C'est vrai qu'on l'a dit.
Oui, c'est plus ça, effectivement.
Attends, je cherche une voix.
Secte dans laquelle il faut vivre à poil et se nourrir exclusivement.
Sachez qu'il se caresse le genou. Ouais. Lentement et délicatement. C'est très exact. Bizarre.
Mais concentrez-vous sur la
question. Il a mis une mauvaise ambiance.
Concentrez-vous sur la question.
Il y a tout de suite une petite ambiance dans la salle là.
Ouais, maman, je recommence.
Ouais. Troisième fois. Allez.
Secte dans laquelle il faut vivre à poil et se nourrir exclusivement de noix de coco.
C'est faux.
Faux.
Ah, vous pensez que c'est faux ?
Ouais.
Eh bien, c'est vrai !
Eh bien, c'est vrai ! Que cette secte a existé, Mehdi, explique-nous ça.
Mais elle n'a pas dû durer très longtemps, du coup. Ils ont
C'est une secte qui a été créée par Auguste Engelhardt en 1903. Donc, il avait 18 membres, mais les premières disputes ont commencé à éclater lorsque des membres ont commencé à manger autre chose que des noix de coco.
C'est adorable.
Ceux qui sont restés et qui ont effectivement continué de manger des noix de coco, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ils sont morts.
Ils sont morts.
Et en fait, il y en a d'autres qui mangeaient autre chose que des noix de coco. Ils mangeaient des fruits exotiques et ça n'a pas plu au gourou. ça vous aurait tenté cette secte
Non.
Et s'il faut manger que des bounties ? Moi, j'adore les bounties.
Non, mais en fait, surtout, il y a aucun truc.
Il
y a aucun truc en rapport avec une spiritualité.
Bah, non, y a rien.
On dirait une règle d'enfant.
C'est vrai. Oui, c'est vrai ça. Il y a même pas un truc cosmique d'extraterrestre.
Ouais,
quoi. C'est juste manger des noix de coco.
C'est
gratos.
Alors non, j'ai un peu creusé le sujet et figurez-vous que s'il voulait que les gens mangent des noix de coco, c'est parce que pour lui, les noix de coco représenter le visage humain. Mais encore une fois, Anaïde, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de... Tu vois,
c'était un avant-gardiste de seul au monde.
Je crois que c'est juste un ouf, en fait.
Ouais, c'était un peu ça.
Très bien. Mais écoutez, 0-0 pour l'instant, vous avez vu tout faux.
Ok.
Secte dans laquelle le gourou...
Perfouras maintenant.
Secte dans laquelle le gourou guérit...
Il a pris un accent marseillais, là.
Allez, pour un peu d'amis.
Secte dans laquelle le gourou guérit n'importe quelle maladie en massant des seins.
C'est sûr que c'est vrai.
C'est vrai.
Eh bien, c'est vrai.
C'est vrai, un point chacun. Oui, donc c'est une secte où. Explique-nous qui a créé cette secte.
Bon, c'était créé par Serge Benayoun en 1999.
Un perso de la vérité, si je m'en prends.
Il n'y a pas si. Donc il a acquis ce pouvoir alors qu'il était aux toilettes.
Ok.
Il a été frappé par une énergie cosmique qui lui a donné ce don.
Il y a souvent une objectivisation, objectivisation du corps de la femme par les gourous.
Oui, c'est vrai.
Hein,
c'est
comme vrai. Dans Raël. Hein.
C'est vrai. C'est
marrant. Tu as vu le
meilleur documentaire.
Incroyable.
Ça. Ah, il est bien ce documentaire alors.
Tu l'as pas vu ?
Il faut que je le regarde.
Oh là là.
Alors attends, explique-nous. Donc en gros, ce Serge Benayoun, il a créé une secte où en gros, il disait aux femmes, je peux vous guérir de n'importe quel cancer en vous massant les seins.
Ouais.
C'est fou.
Et il a réussi à en guérir.
Ah bon ?
Faux.
Ah non, c'est faux.
C'est faux. Elle était intéressée.
Ça se fait pâter les bloches.
C'était aux États-Unis ? C'était où ?
Ça, c'était en Australie.
Ok.
Oui, d'ailleurs, les autorités australiennes l'ont arrêté au bout d'un moment. Parce qu'il passait sa vie à masser des seins sans résultat. Et ils se sont dit, bon, il y a quelque chose qui cloche quand même. Donc voilà, c'est carrière terminée pour Serge Benayoun.
Une secte dans laquelle il fallait manger les cheveux et les poils pubiens du gourou pour atteindre la liberté cosmique éternelle.
Non, c'est faux. Attends,
réfléchissez bien.
Réfléchissez bien. Oui, réfléchissez avant de
parler. Dire faux aussi caractéristiquement, alors qu'avant l'autre touchait des seins et.
Bah, ça paraît plus probable. Là, c'est un peu too much, quoi.
Non, non, non. Pour moi,
ça devrait pas que ce soit sorti de votre crâne.
Comment ça? Il mangeait les poils pubiens et les cheveux du gourou pour atteindre la liberté cosmique éternelle, c'est ça?
C'est ça. Pour moi, c'est vrai parce que je pense qu'il peut y avoir un truc de manger l'origine, le corps un peu du Christ, en fait. Une sorte de référence au corps du Christ, mais en premier
bien
degré.
Bien sûr.
Non, moi je dis que c'est faux. Bien L'énergie cosmique, c'était too much.
Bien sûr.
Perversion de ce côté-là. Mais
c'est faux, évidemment.
Comment tu peux imaginer qu'un être humain puisse penser ça une seule fois dans sa vie?
Mais attendez, les gars, la manipulation, tu peux faire des trucs de fou.
C'est vrai.
Pas ça.
Ça fait 1-0 pour Sarah, du coup.
Toi, t'es capable de faire manipuler, j'ai l'impression. Beaucoup de
mais attends, on dit mange mes cheveux, toi, tu vas. Toi. Cheveux,
voilà. S'ils sont propres, les cheveux, je vois pas où ils
prennent. Il en reste deux, je crois, Midi.
Il en reste deux.
Une secte dans laquelle on doit donner tout son argent au gourou et se nourrir dans les poubelles jusqu'à la fin de sa vie afin d'accéder au véritable pouvoir et savoir.
Donc je récapitule, on donne tout son argent au gourou.
Ouais.
Et après, l'autre deal, c'est de bouffer tout ce qu'il y a dans les poubelles pour atteindre la liberté éternelle, le savoir éternel.
Alors la première partie, oui, c'est le cas dans beaucoup de sectes, mais alors bouffer dans les poubelles pour être libre.
Non, pour avoir le savoir.
Pour avoir le savoir.
Si tu veux le savoir, faut manger dans les ordures jusqu'à la fin de ta vie.
Faut arrêter de se foutre de notre gueule.
Moi je dis ouais, je pense
que. Sarah pense que c'est vrai ça.
Ouais, je pense que en fait c'est juste un truc de manger les restes ou des trucs comme ça, genre d'être minimaliste dans ta consommation.
Ça passe.
Anaïde.
Non, ça passe pas, mais.
Si tu bouffes dans les ordures, tu atteins le savoir.
Alors, on dirait les trucs de rhétorique bizarre là, ça a aucun rapport. Attends, bouffer dans les poubelles, ça m'étonne pas qu'ils disent ça, mais qui leur fasse croire que c'est pour avoir du savoir, c'est un peu.
Mais je pense que c'est vrai. Pour bouffer des poils et.
Vas-y, je dis que c'est vrai quand même.
Les deux disent que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. Tu nous expliques quelle était cette secte?
L'explication est.
Parce que je
n'écris pas tous mes concepts. Hein. Des fois, je reprends des concepts qui ont déjà été écrits. Donc là, c'est très simple. Hein. C'est la secte du corps du Christ fondée en 1971. J'ai pas d'autres explications.
Faites vos recherches. Ouais, travail d'archives. J'espère qu'elle n'existe plus. Quoi.
On n'est pas journaliste. Hein. Les recherches n'ont pas été creusées. Mais juste, sachez que ça a existé. Ça fait 2-1 pour ça. Et dernière question.
Ça vous plaît ce jeu?
Ouais, j'adore.
On peut encore continuer.
On pourrait continuer pendant des heures comme ça.
Tout à fait. Mais là, ça va être la dernière, donc fais-nous ta meilleure voix. Hein.
Ouais.
Donne tout. Essayer.
Let's go.
Et enfin, une secte dans laquelle on doit pratiquer le kung-fu pendant heures et des heures, jusqu'à épuisement, et baiser en permanence, afin qu'il n'y ait que des orgasmes chaque jour au sein de la secte, pour des bonnes ondes.
C'était la boule de Fort Boyard. Moi je dis que c'est grave vrai. C'est grave vrai.
Alors donc on récapitule, faire du kung-fu jusqu'à épuisement, baiser tous les jours pour avoir des orgasmes. Ouais. Et les orgasmes c'est juste pour les bonnes ondes au sein de la secte.
Moi je dis ouais.
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 Beaucoup de trucs très sexuels pour le bien-être dans les sectes.
Après, c'est possible que ça soit une idée qui a été développée dans un film, genre un film asiatique ou un truc comme ça, ça ne m'étonnerait pas. Mmh. Et je pense que c'est faux, mais que ça existe dans un film.
Ah, c'est faux, et Anaïde dit que c'est vrai.
C'est compliqué.
Ouais.
Eh bien, ça fait 2-2! Parce que c'est vrai! Et oui, Anaïde égalise au dernier moment. Effectivement, c'est vrai, c'était quoi cette secte?
Cette secte s'appelait les Guerriers de Lumière, et ça existait en France.
Oh.
Il n'y a pas si longtemps.
Jusqu'en 2015.
Oh, waouh!
Eh oui.
JB a encore sa carte membre.
Non, mais donc ça veut dire qu'en fait il existe encore des sectes. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup de trucs sur les sectes. Et les gens se disent encore, c'est peut-être ok, quoi.
Ouais.
Ça, c'est assez fou quand même.
Bah, Raël, c'est toujours d'actualité.
Oui, c'est vrai.
Donc, alors, attends, moi j'ai pas vu le documentaire, ça existe encore, Raël?
Ça existe encore.
Ouais, ça existe.
Il s'est développé au Japon.
Mm-hmm. Mais non.
Ah, oui, et en Afrique, il y a même un mec qui se dit quoi, son fils spirituel.
Le descendant,
spirituel des Elohim.
Son homonyme, en fait.
Ouais.
Ah, mais attends, alors moi j'ai une petite question à vous poser. Parce que mettons, Anaïde, un soir, est-ce que t'as prévu de partir à la campagne? Est-ce que tu vas à la campagne parfois?
Oui, mais là j'ai pas prévu là.
T'as pas prévu, mais bon. T'es à la campagne, comme ça, puis il y a un champ, il y a pas beaucoup de personnes, etc. Et là tu rencontres un vaisseau spatial, un extraterrestre en sort, et là l'extraterrestre te dit, Anaïde, c'est toi que j'ai choisi, tu vas être l'élu pour... Bon bref, il t'a donné l'info est réelle.
Mehdi peut faire une imitation de la voix de l'extraterrestre ou pas?
J'ai besoin de me projeter.
Attends, mais comme il y a besoin de te projeter, Mehdi, t'es l'extraterrestre, tu rencontres Anaïde, ce que tu lui dis?
E.T.
Tu es l'élu. Elle se balade là dans le champ.
Faut venir. Voilà, c'est couchant. Oh, qu'est-ce ouais. que c'est?
Un grand moment qui se passe là.
Le extraterrestre venu de la planète Elohim.
Pas mal, j'aime bien le nom.
Tu es l'élu de notre planète.
Il est en train de crever l'alien.
Et qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma mission?
Ah, bonne question.
Ta mission est de devenir une actrice redoutable.
Ah, c'est trop mignon.
Et de remporter énormément de consécrations.
Ah, je peux l'adopter.
Vous êtes aussi gentil que ma tata, merci.
Parce que là, il l'a pas lancé sur une secte, mais en même temps.
J'avoue.
C'était pas du tout le scénario.
Encore une fois, elle était touchée, elle était prête à venir.
Oui, elle était prête
elle
à y aller.
Elle est facile à manipuler.
Elle allait manger des poils. Attends.
Et j'ai mes poils tout bien.
Non mais du coup, alors cet extraterrestre arrive et te dit, il faut que tu diffuses ma parole, etc. C'est très important pour le sort de l'humanité. Là, du coup, t'es en galère parce que toi, t'as ta carrière d'actrice, t'as des projets, quoi. Tu vois.
Elle est super prime d'œil, la question. Putain.
Non, mais oui, mais tu peux pas niquer ton projet, ça marche bien pour toi en ce moment, Anaïde. Bon, on se doute que si tu dis ça, on va te prendre pour une illuminée. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation?
Mais je te retourne la question, elle est super cette question. Hein. Enfin, attendez.
Vas-y, on va t'en faire une émission de télé. Anaïde, bonsoir. Tu peux venir nous dire quelque chose.
Attends, je réfléchis. Mais non, mais déjà, je vais pas en parler sur un plateau télé en fait.
Oui, mais alors l'extraterrestre te dit que.
Il faut en parler sur un plateau télé, il me dit ça.
C'est qu'en fait, il te dit si tu fais rien, ce sera la fin du monde en 2026. C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans 2 ans, faut bouger là.
Oh, je dors dessus déjà. Je dors dessus, je réfléchis. Et qu'est-ce que je fais, putain?
Carrière terminée, tu le sais.
Putain, oui.
Oui, mais carrière terminée, Mehdi.
Je veux dire, c'est le verso, il réfléchit trop.
Ouais, je demande à ma mère ce qu'il faut faire. Et non, peut-être je donne un rendez-vous à quelqu'un de haut placé, je lui dis démerde-toi avec ça, et moi je te. Oh, je sais pas.
Alors écoutez, vu que tu sais pas, Naïde,
putain, je sais pas.
Je vais balancer une bombe dans ce podcast.
Oh merde, il a rencontré un alien.
Non, mais je. Ah, mais attends. Je vais balancer une bombe.
Oh merde.
Mehdi aurait rencontré un extraterrestre dans sa vie.
Quoi ?
C'est la bombe que je vous balance.
Mais non, je vais
pas. Ça a jamais été dit sur les réseaux. C'est la bombe que je vous balance.
C'est
vrai, c'est vrai.
Mais raconte-moi.
Non mais c'est
vrai. Gros
mytho. Non mais attends. Gros mytho.
Je ne connais pas ce dont
je parle. Moi j'y crois, je suis crédible.
Non mais attends, vas-y raconte.
C'est la bombe. Ah mais ça m'intéresse quand même. Ça m'intéresse.
Non non, mais je sais que c'est faux. Mais
non non, il me certifie que c'est vrai depuis des années. Attention.
Mais déjà, est-ce que tu crois aux extraterrestres?
Bah non. Attends. Non, je crois pas. Non, mais je crois pas. Enfin, en fait, j'ai pas la prétention de dire non, il n'existe rien à part nous, tu vois. Enfin, voilà.
J'aime bien cette façon de penser.
Mais c'est pas. Moi, je t'avoue, je suis athée. Je crois au fait que je suis toute petite et que évidemment, peut-être qu'il se passe d'autres. Enfin, ça.
Quelque chose de plus grand, quoi.
Bah oui. Et puis pas au-delà de quelque chose de plus grand, quelque chose ailleurs. En fait, tu vois. Pourquoi pas, en fait.
Mehdi n'a jamais dérogé à la règle. Il m'a jamais dit que c'était un mytho, n'est-ce pas, Mehdi?
Non, jamais. J'ai été victime d'une expérience sensorielle. Voilà.
Tu peux raconter?
Oui. J'étais en fait, je rendais visite à ma grand-mère qui habite à Évreux. Donc, elle est mise dans une maison et puis, elle a une chambre au sous-sol, à côté du garage. Donc, je décide. Bah, moi, c'est là que je dors hein, quand je vais la voir. Et donc, je suis tout seul. Et en fait, un soir, je m'endors. Et je me réveille un peu et je suis paralysé. Je suis paralysé et je sens à mes côtés une présence. Mmh.
Ah,
ils sont très.
Ah,
c'est ça.
Ah ouais, non, mais voilà.
Elles sont captivées. Hein.
Pour l'instant, je suis en mode c'est une paralysie du sommeil.
Je me dis aussi.
Quoi, décevant, décevant.
C'est bien, tu crois.
J'ai déjà eu ça.
Bah oui, j'ai déjà eu ça.
Ça te fait quoi?
Bah ça te paralyse.
Ah oui, j'ai déjà eu ça.
Et c'est genre la réalité avec des ajouts. De non-réalité, mais
en fait, t'as
c'est...
pas compris.
Mais moi j'ai bu tes paroles, Mehdi, pendant des années.
Mais non, mais elle a été enlevée, c'est ça que tu. Toi, tu...
je vous explique ce que c'est la paralysie du sommeil. Je ne suis pas médecin, donc je vais peut-être l'expliquer avec des mots de bébé, mais en gros, la paralysie du sommeil, c'est que tu te réveilles, sauf que ton corps est endormi, et du coup, ton cerveau envoie à ton corps le fait de ne pas bouger parce que. Si, quand on dormait, notre corps n'était pas bloqué, on se frapperait, en fait, quand on rêve, tu vois. Et du coup, là, tu te réveilles psychologiquement, mais ton corps est endormi. Et du coup, c'est comme si t'étais éveillée tout en rêvant. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une paralysie du sommeil, c'est-à-dire que j'ouvre les yeux, je ne peux absolument pas bouger, je suis paralysée
parce que mon
corps me protège pour pas que je me frappe, il est endormi mon corps. Et en fait, c'est comme si je voyais la salle, mais comme je rêve, j'ai des hallucinations en fait, des hallucinations visuelles et sonores et sensorielles. Et moi, j'avais fait une paralysie du sommeil, désolé, je suis en train de te niquer.
Non, moi, j'ai avalé ces salades pendant des années.
J'ai senti quelqu'un venir qui m'a caressé le bras, je l'ai vraiment senti.
La fameuse
présence. C'est vrai ça, c'est vrai.
Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Je suis l'élu d'Evreux.
Ah, c'est magnifique comme titre.
Mais attends, mais parce que moi j'ai avalé tout ça pendant des années, mais dit, et là, Anaïs.
Mais attends,
t'as
pas eu la suite, donc là
c'est une paralysie du sommeil.
Ah bah non, après il se passe. Après.
Moi j'y croyais
rien de plus.
Après, j'ai appelé direct JB quand ça allait mieux. Je fais, attends, il m'arrive un truc de fou là.
Non, mais c'est vrai
que tu m'as appelé dans l'instant,
je me rappelle. C'est cringe ces expériences, c'est assez ouf.
Ouais, ouais. Ah donc, bah tu vois, t'as pas été enlevé finalement, Mehdi. C'est l'info que je te donne aujourd'hui.
T'as juste été paralysé, ton oreille elle a vibré.
Mais voilà, Anaïd elle a expliqué, c'est juste un mauvais rêve quoi.
Dégoûté quoi. Ouais, moi je l'imaginais avec un vélo, avec un allèle dedans. Ouais.
Et toi tu vis ça normalement, y a pas de soucis quoi.
Pas du tout. Non, mais franchement, regarde des forums, tu verras, ça arrive à plein de monde. Et souvent les gens pensent que c'est un truc un peu surnaturel, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement. Je suis désolée, je vois ton regard.
Ah, Mehdi, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui?
C'est l'enfant en lui. Quoi.
Non, mais qu'est-ce que ça te fait d'apprendre que tu n'as jamais été enlevé par les extraterrestres?
Je suis dégoûté.
Parce que ça te donnait une petite, un petit truc
un petit
à part,
charme,
de, un petit charme de raconter cette histoire.
Un peu charmé.
Ah bah, on est entré dans mon cœur quoi. Là t'es vite ressorti, je t'explique.
Ce qui est drôle, c'est que moi je m'attendais à le couper, à dire c'est une paralysie du sommeil, qu'ils me disent non mais après il y a eu encore. C'était ça.
Oui, c'est juste réveillé, quoi, c'est tout. Il y a rien eu. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus, parce que très souvent, il y a des histoires, vous savez, il y a des histoires d'enlèvement par des extraterrestres, etc. Moi, j'ai une théorie, c'est que si, mettons, dans un champ, tu places une table comme ça, comme une table d'opération, que tu te mets dessus, que tu t'attaches les mains et que tu mets des petits instruments comme ça pour t'opérer,
déjà, tu parles.
Et ben, il se passe rien. Il n'y a aucun extraterrestre qui vient, quoi.
Il y a Guy Georges qui arrive.
Oui, il y a Guy Georges qui vient. Ouais. Non, mais il y a un truc où ils sont là, tu leur offres ton corps, mais ils vont pas venir, quoi. Donc bon.
Non.
Ma théorie est pas si ouf.
Ouais, ça
ma théorie
est pas si ouf. Déjà de base.
Peut-être non, mais est-ce que tu le tenterais ça?
Non.
Ouais, bah non, qui tente ça? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ça? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que vous croyez au truc un peu paranormal?
Oh, complètement.
Ah, toi tu y crois toi ça?
Oh là là, mais alors 100%.
Ah ouais, tiens. T'as été très hautaine sur les extraterrestres, mais par contre, les fantômes.
Mais non, pas du tout.
Hautaine, il a dit.
Pas du tout, au contraire, moi j'étais fan de son histoire. Je suis juste déçue que la finalité c'était pareil. Mais au contraire, moi je crois aux extraterrestres, je crois aux fantômes.
Ah, t'es bien.
T'en as vu?
Non, malheureusement.
T'as déjà appelé les esprits?
Attends, si, j'ai une histoire pourrie. Ah. Après, mais ça peut pas être plus naze que celle que Mehdi vient de raconter.
Elle est très incisive.
Ça tire à vaguer.
Donc, je suis chez moi. Dans mon ancien appart, et il s'avère que j'ai un chat depuis 10 ans, sauf que mon chat ne vit pas avec moi, il vivait à Bordeaux à ce moment-là. Et un soir, je suis posée sur mon canapé et je vois un chat roux traverser la pièce en courant. Sauf que je me dis, c'est improbable et tout, je sais pas, j'ai
ton chat, il est pas
une hallucination. Si, il est roux, mon chat. J'ai eu une hallucination, pardon, c'est d'être un phare de voiture ou quoi. Bon, je passe à autre chose. 10 jours plus tard, il y a mon petit frère qui est chez moi. Et puis il me dit, oh, trop bizarre, je viens de voir un chat roux passer. Comme s'il y avait un chat qui vient de passer à travers. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai vu
un chat. C'est pas mal. Non, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Mais
c'est,
voilà, mais j'avais un fantôme de chat. Ça aurait été un fantôme d'humain, je pense que j'aurais déménagé un fantôme d'homme. Mais voilà.
C'est la seule.
Moi, j'ai une histoire aussi, également. Je sais pas si tu te rappelles, Mehdi, de Nabil, un des potes de Nico.
Ouais.
Et c'est un mec vraiment. Il balançait aucun mytho, quelqu'un de très équilibré, etc. Il m'a jamais balancé de mytho, vraiment, c'est pas un mythomane, quoi. Il m'avait raconté une histoire qu'il était arrivé en Algérie, où en gros, il était dans une maison comme ça, au milieu de la campagne, avec sa mère, quand il avait 17-18 ans. Et ils étaient dehors, sur la terrasse, en train de manger, il n'y avait personne à la maison. Et d'un coup, ils entendent un brouhaha pas possible dans la cuisine, comme si 10-15 assiettes tombaient par terre, vraiment un truc très brutal à l'oreille, quoi. Mais là, à ce moment-là, pas de problème. Ils disent, bon, bah, c'est les assiettes qui devaient être sur le rebord de la cuisine, elles ont dû tomber, etc. Et là, ils vont dans la cuisine, rien par terre, tout est nickel. Et la maison était isolée dans la campagne, quoi. Donc, c'était assez flippant. Et moi, je me souviens que j'ai vécu quelque chose comme ça, d'assez similaire aussi. Un week-end à Deauville, où j'étais dans une maison qui appartenait justement à Nico, à mon cousin, où en gros, j'avais entendu un brouhaha à 2h du matin dans le salon en bas, maison isolée, pareil, comme une grande barre métallique qui tombe par terre. J'étais descendu un peu flibé parce que vraiment bruit énorme. Et quand je suis allé en bas, il n'y avait rien par terre. rien du tout, quoi. Tu
vois. J'aime trop ce genre d'histoire.
Donc, ça prouve rien de bien grand, mais c'est en tout cas ce que j'ai vécu, oui, vraiment. Ouais. Toi, t'as déjà eu des trucs comme ça, Naïd?
Oui, mais en fait, comment dire? Moi, j'ai l'impression que le silence amène... je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, moi, quand je suis seule chez moi, alors c'est un peu flippant, enfin, je veux dire, de par rapport... Oula, 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. Non, mais parfois, quand je suis seule chez moi, j'entends mon portable vibrer. Alors qu'il vibre pas, tu vois. Et j'ai
mais non, mais ça, des fois, c'est le... Tu sais, moi, des fois, le mec du dessus, j'entends son truc vibrer.
Oui, mais non, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu le truc vraiment à côté de mon oreille, tu vois. Et parfois aussi, quand je suis à la campagne, j'entends des bruits, mais j'ai l'impression que c'est juste mon cerveau qui est habitué au bruit, qui parfois alimente des sortes de bruits. Et moi, il m'est arrivé un truc qui n'est pas en rapport avec un bruit ou un truc, mais il s'est passé quelque chose d'assez bizarre. C'est que j'étais à Naples avec une copine. Elle m'a prise en photo et j'étais en maillot de bain, vraiment dans une position assez particulière, avec un décor particulier. Je me souviens, il y avait un rideau bleu. En haut, il y avait une lampe, machin et tout. Et donc ça, c'était il y a peut-être 2 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ouvre un mail dans mes indésirables. Je clique et je vois un tableau qui est exactement la représentation de la photo, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, ma copine a envoyé la photo à un peintre ou quoi, je lui en parle, elle me dit, mais pas du tout, non. Et je vois que le tableau, surtout, a été peint il y a genre 10 ans, quoi. Mmh. Et c'était exactement la même photo.
Ça.
Et c'est assez flippant parce que c'est exactement le même truc. Et en plus, je me souviens, ma pote Emma m'a vraiment pris en mode « Ah, t'es trop belle, tac !» Enfin, tu vois, elle n'a pas du tout dit « Mets-toi comme ci, comme ça !» Je me souviens, j'étais dans un mouvement, elle me fait « Tac !» Elle me prend en photo et puis, tu vois. Et c'était franchement, à peu de choses près, la même
la même représentation. Mais tu l'as gardée, cette photo-là?
Ouais.
Mais attends, mais pourquoi c'était dans les indésirables, du coup? Enfin, c'était quoi comme mail?
C'était, tu sais, des mails de propositions, d'invitations à des expos, en fait.
Attends, mais c'est fou.
C'est incroyable. Fou,
ouais. Et t'as déjà montré ça ou pas?
T'as dit quoi?
T'as déjà montré ça aux gens ou
Ouais, j'ai montré, les gens.
Et quand ils
choqués.
Voient ça, ils disent quoi?
Ils sont choqués. Je peux pas vous montrer la photo parce que la photo est un petit peu...
Olé olé.
Olé olé, ouais. Tout à fait. Mais c'est... Je peux vous montrer la peinture. Hein.
Ouais.
Je peux vous montrer.
Putain, c'est fou. Et c'est à peu près les mêmes détails.
Ah non, mais mes cheveux sont pareils, la position est pareille.
C'est une peinture qui date des années...
Non, c'est une peinture qui date de pas très longtemps, mais qui a été faite bien avant que ma pote me prenne en photo.
Et est-ce que le lieu qu'il y a derrière ressemble à...
En fait, le rideau est le même. Derrière, il y a la mer, mais en fait, ça rappelle le drap, la même couleur que le drap. En haut, il y a le ciel blanc qui rappelle la lampe blanche. Et il y a du marron aussi par terre, comme sur...
Et alors, comment t'expliquerais ça, alors, celui-là?
Ça, pour le coup, je ne peux pas l'expliquer. Il y a plein de choses que je peux expliquer. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre un bruit qui n'est pas... de voir quelque chose qui, en fait, n'est pas là et tout. Pour moi, après, moi, j'ai fait des études de psychologie et j'ai beaucoup étudié les maladies mentales. Donc, je suis un peu, je pense, influencée par ça et par le fait que je suis assez convaincue que le cerveau peut inventer ce qu'il veut en termes sensoriels, physiques, auditifs, voilà, et visuels. Donc, ça, ce n'est pas des choses qui m'impressionnent beaucoup. Mais ça, j'avoue que c'est assez inexplicable.
Il m'est arrivé un truc, figurez-vous, il y a 2 jours à peine, que je trouve assez fou. J'étais en train d'écouter un podcast, je suis dans mon salon en train de travailler, j'écoute le podcast, et à l'intérieur de ce podcast, il y a une des deux personnes qui parle d'inondation, dégâts des eaux chez soi, quoi, au plafond. Il dit, ouais, c'est chiant qu'on ait un dégât des eaux, enfin, ça parle de ça dans le podcast. Et à ce moment-là, je me dis, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, un dégât des eaux. Et,
Tu t'es porté la poisse.
Et genre, ce serait fou, enfin, ça m'est jamais arrivé, je suis vraiment trop chanceux d'avoir jamais eu ça, parce que ça a l'air d'être trop lourd à gérer, quoi. Je vous mens pas, 5 minutes plus tard, je vous montrerai la vidéo après le podcast. 5 minutes plus tard, j'entends un bruit dans la salle de bain pas possible et le plafond est inondé. Je vous jure que ça va être... Même dit, je t'ai appelé il y a 2 jours. C'est incroyable. J'écoute le podcast, je me dis ça 5 minutes après, vraiment. L'inondation dans ma salle de bain.
Ouais, mais c'est pas du paranormal.
Non, plus, c'est pas du paranormal, non, mais c'est un truc que je saurais expliquer.
La loi de l'attractivité, du coup.
Oui, de l'attraction.
Ouais.
Il y a deux spécialistes.
L'attraction, excusez-moi. Mais attends,
c'est-à-dire...
Les
parcs d'attractions.
Est-ce que vous croyez aux parcs d'attractions?
Faut y croire parce que c'est super.
Allez, on enchaîne là-dessus parce que par contre, ça maîtrise pas trop le sujet là.
Ça sera l'objet d'un autre podcast.
Non, mais alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire, Sarah?
Mais non, mais en gros, il me semble que tes pensées peuvent influencer tes.
Ouais, mais là, ce serait dingue parce que ça veut dire que je pense à ça et d'un coup.
Je trouve que t'as un truc, ouais, je trouve que t'as un don, toi.
Ah bah tu vois, c'est moi le mystique maintenant, c'est plutôt avec ton histoire de.
L'élu d'Evreux, là.
En plus, c'est triste parce que t'as vraiment dit, t'étais vraiment reconnaissant, t'as pas dit, ouais, ah putain, c'est ça. Des dégâts des eaux, miskines et tout. Ouais, enfin, t'as remercié le ciel.
Exactement. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire qui suit. Je raconte mes livres, l'histoire qui suit ou pas?
Je suis dedans.
Bah non, c'est l'histoire que je t'ai racontée quand je suis monté là-haut.
Ah, ça peut être intéressant.
Ça peut être, ouais, ça peut être intéressant à raconter. Vous voulez raconter, vous voulez que je raconte l'histoire? Alors, donc, il y a. C'est vraiment, mais genre, c'est les chutes du Niagara dans ma salle de bain, quoi. Je monte à l'étage et en fait, j'entends une personne qui prend sa douche. Donc, ça vient de là, en fait, c'est l'appartement au-dessus. Okay. Et je sonne à la porte. Au bout de 2 minutes, j'entends que la personne ne prend plus sa douche. Donc, je continue de sonner, je cogne et tout, parce que vraiment, ça déborde dans ma salle de bain, il faut faire un truc, quoi. Et ça répond pas. Et en fait, j'entends, la porte est assez fine, et j'entends que la personne fait sa vie, elle prend un verre, elle le pose, elle boit comme ça, alors que moi je suis en galère de ouf, quoi. Ma salle de bain est en train
de. Et elle t'entend toquer en plus.
Évidemment, elle m'entend sonner, toquer, etc. Donc je sonne, ça répond pas, je reste bien 10 minutes comme ça, et en fait, je dis, genre, écoutez, je vous entends derrière la porte, genre, j'ai vraiment besoin que vous répondiez, je suis votre voisin du dessous parce qu'il y a une inondation, quoi. Ça répond pas, elle fait sa vie.
Ça fait trop peur.
Ouais, grave. Et donc, au bout d'un moment, elle répond. Et elle ouvre la porte, elle est en serviette. Juste vêtue d'une serviette. Et il me dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je fais, bah, en fait, je suis votre voisin du dessous et je montre la vidéo que je viens de prendre de l'inondation. Je fais, oui, une grosse inondation. Du coup, il faudrait régler ça parce que là, je vais avoir un dégât des eaux pas possible et tout. Et il me dit, oui, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse et tout. Elle avait un ton de ouf.
Oh là là.
Et là, je lui dis, bah, en fait, est-ce que vous êtes locataire, propriétaire? Je suis locataire. Est-ce que vous pouvez appeler votre propriétaire pour que je puisse gérer ça avec lui? Non, non, mon propriétaire, c'est quelqu'un de très occupé, donc je vais pas l'appeler, non.
Oh, wow. Et là,
je lui dis, mais attendez, vous vous doutez bien qu'il faut qu'on règle ce problème, ça peut pas rester comme ça. Je fais, oui, mais bon, vous savez, moi je suis comédienne et là.
C'était moi en fait, excusez-moi.
Sorry again.
Mais attends, t'as raison de dire sorry again parce que tu vas voir la fin. Et en fait, elle dit, écoutez, moi je suis comédienne, là, je révise pour le théâtre, donc là j'ai pas le temps avec ça. Tu vois. À ce moment-là, le taux d'énervement grimpe en moi. Mais je ne dis rien. Et donc là, je dis. Écoutez, non, mais de toute façon, il faut régler ça. Enfin, on est obligé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on est obligé. Là, elle me fait, écoutez, de toute façon, moi, je suis très mal à l'aise à l'idée de vous parler alors que je suis nul, là. Et là, je fais.
Bah, t'habiller.
Je t'ai pas demandé de me répondre comme ça. Ça fait 15 minutes que je suis derrière la porte, quoi, tu vois. Et là, je lui dis, bah, si vous voulez, en fait, je peux revenir dans 10-15 minutes. Vous serez dans de meilleures dispositions et puis on pourra en discuter. Et elle me fait, alors, non, je ne vais pas vous répondre parce que, comme je vous ai dit, je suis comédienne et là, je dois prendre mon test sur le théâtre. Et là, du coup, je m'agace et je lui dis. Et en fait, je comprends pas pourquoi vous me répétez que vous êtes comédienne, je veux pas le rapport avec la fuite en fait. Ah. Et là, elle me regarde et elle me fait « Oh my god !» et elle claque la porte.
C'est
et,
la meilleure chute.
Et elle claque la porte à fond.
Non, c'est trop drôle.
Et genre, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là en fait, tu vois? Et du coup, j'étais en galère, du coup, j'ai dû appeler le syndic pour trouver le propriétaire, là, c'est une galère, mais genre...
Génial. Tu l'as pas retrouvé cette meuf?
Je la déteste, officiellement.
Je veux savoir qui c'est.
Et bah, je vais trouver sur Insta et
je vais aller la voir au théâtre.
Mais dis, quand j'ai raconté, elle me plaît, cette petite. Elle a un caractère qui me plaît.
Moi, j'adore discuter avec des fous, en fait. Toujours à un angle et...
Non, mais,
je peux jamais gagner contre eux.
Non, mais oui, mais je pense qu'en vrai, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est folle, mais en tout cas, c'est le comportement de quelqu'un qui est juste... Moi, je sais, si on m'appelle et qu'on monte la vidéo, je fais ouais, grave, faut arranger ça, obligé. Évidemment, faut arranger ça, quoi. Enfin,
elle est déconnectée, quoi.
Voilà, c'était la petite. Ça vous a plu la petite histoire sur la voisine du dessus?
T'as super bien raconté en
plus. Quel rapport de dire qu'elle est actrice? Il y a un lien dans.
Moi, ma petite théorie personnelle, c'est que c'est une personne. Parce que moi, je me suis fait toute une théorie sur cette personne où, en gros, c'est ses parents qui lui payent un appart.
Oui,
elle rêve d'être actrice. Ses parents lui ont souvent dit tu seras pas actrice. Elle a besoin de prouver quelque chose. Donc, de facto, elle a besoin de répéter souvent qu'elle est comédienne.
Ouais.
Voilà, je suis un mentaliste, en fait. Donc, j'ai...
Mais ouais. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui osent pas dire qu'ils sont comédiens. C'est le contraire. Tu vois?
Exactement, c'est vrai.
Genre, moi, par exemple, même depuis que je joue dans des films, ça me gêne trop de dire je suis actrice. Genre. Je trouve ça. Parce qu'en fait, si tu me poses la question, c'est que tu me connais pas, en fait.
Ouais,
tu fais quoi dans la vie? Je suis actrice. Ah ouais.
Ouais, puis c'est chiant à expliquer. Tu vois, il y a un côté où c'est chiant à expliquer.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai ça.
Tu vois.
Et il y a ce petit côté où tu dois expliquer, puis en même temps, t'as pas envie d'être un but de ta personne.
Ouais.
Donc t'en rajoutes pas des caisses. Il y a toujours un truc un peu au milieu où tu dois dire oui, j'ai joué. Parce que toi, t'as joué dans un Audiard.
Tout à fait. C'était mon premier long métrage.
Et tu vois, il faut que tu places ça.
Plus que comédienne, actrice, il y a vraiment un côté, je me la pète. Enfin, alors que pas du tout. En vrai, c'est. Enfin, c'est un métier, tu vois. Mais être comédienne, tu peux te dire, bon, bah, c'est théâtre, c'est cinéma, tu sais pas trop. Actrice, c'est vraiment en mode festival de Cannes, quoi.
Mais attends, mais alors, toi qui sais si bien te vendre. Là, je te connais pas, d'accord?
Ouais.
Je suis en soirée, je fais, bah, c'est quoi ton métier, toi, Anaïd? Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas du tout ce que tu fais.
Écoute, c'est un petit peu compliqué. J'ai commencé par faire. Bon, en vrai, je vais très bien tout à l'heure.
Ah non, mais par contre, tu fais un truc que j'adore, et ça, pour le coup, c'est très verso, parce qu'on le fait souvent avec Mehdi. C'est que, tu vois, là, je t'ai demandé d'entrer dans un personnage, genre comme s'il y avait une situation, et tu l'as fait aisément avec plaisir.
Ouais.
Et moi, j'adore les gens qui font ça, et avec Mehdi, on le fait très souvent. Et très souvent, moi, je rencontre des gens avec qui on le fait parfois, et ils sont là, genre, bah non, je vais pas faire un personnage, pourquoi? Et genre,
c'est trop gênant.
Ouais,
après,
non, je vais pas le
personnage,
faire.
Je lui demande de faire. Hein.
Non, mais il y a un truc où je passe, ça casse l'ambiance, quoi. Vas-y, allez, fais le personnage, allez, on rigole,
non
quoi.
Tu vois, okay, ouais. Bon,
bah. Oui, donc oui, tu saurais te vendre. Bon, écoute,
oui. Mais souvent, tu vois, quand on connaît pas mon travail, je dis que je viens de commencer, en vrai, ce qui est pas faux, tu vois. J'ai commencé il y a pas très longtemps.
Ouais. Voilà. Ça fait combien de temps?
En vrai, que je joue dans des films. En plus, j'ai joué dans des films qui sont pas très connus, quoi. Donc, je dirais que mon premier long métrage, c'était Audiard. Je sais plus quand c'était. Je crois que c'était en 2022.
C'était les Olympiades,
mais j'avais un tout petit rôle. Mais ouais, je crois que mon premier long métrage, c'était en 2022.
Ok.
Donc,
c'était
pas très longtemps.
Alors, Anaïde, j'ai une question cruciale pour toi.
Dis-moi tout.
Et de la réponse va dépendre le bon fonctionnement et la suite de ce podcast. Raffoles-tu les anecdotes croustillantes liées à tes films préférés?
J'adore.
T'adores? Eh bien écoute, ouais, j'en ai plein sur Midsommar. Okay, le podcast peut donc se poursuivre. Donc je vais vous balancer plein d'infos sur Midsommar. Est-ce que t'es prête?
Oui.
Vous avez sûrement observé durant le film que les discussions en suédois ne sont pas traduites avec des sous-titres. C'est évidemment souhaité afin qu'on se mette à la place des personnages principaux qui ne comprennent rien à ce qui se passe, ce qui accentue le sentiment d'isolation qu'ils ressentent et qu'on ressent de facto. En parlant de Suède, le film a été accueilli de façon très étrange là-bas. Les Suédois riaient à gorge déployée dans la salle durant le film. Pas du tout l'effet escompté. Ils trouvaient tellement ça absurde de dépeindre les Suédois de cette façon que pour eux, c'était une comédie noire et non un film d'horreur.
Oh, wow.
D'ailleurs, on parlait tout à l'heure. En fait, comment on le classe ce film? Parce que c'est pas vraiment un film. Enfin, on pourrait dire que c'est un film d'horreur, mais pas tant.
Folk horreur, ouais. Folk horreur.
Horror folk. Allez, on va dire horror folk. Et pour en finir avec la Suède, le tournage a eu lieu en Hongrie et non en Suède. Tout ce que vous voyez à l'écran, les maisons, les peintures, etc., tout a été créé pour le film. Dans le film, le personnage de Marc a une phobie des tics. À un moment, il demande au groupe de vérifier s'ils n'ont pas des tics dans les cheveux. Eh bien, figurez-vous que ceci est basé sur la réelle phobie du réalisateur, Ari Aster, qui a une peur extrême des tics durant le tournage qui a eu lieu en pleine nature. Il a tourné chaque jour avec une double paire de chaussettes à chaque pied qui remontait jusqu'aux genoux. Du coup, j'ai une question pour vous. Anaïde, est-ce que tu as une phobie?
Ouais.
Ah.
Ouais, j'ai la phobie des ronds collés.
Attends, quoi? Des ronds collés?
Qu'est-ce que c'est?
C'est très technique.
Tous les ronds collés, les ruches, les ronds.
C'est marrant, ça.
La tripophobie, ouais.
Oui, donc ça a un nom, ça.
Mais en fait, j'arrive pas à retenir ce mot. Ça s'appelle la tripophobie, mais je trouve que ça n'a aucun rapport.
Alors attends, il y a les ruches, il y a quoi d'autre?
Par exemple, moi, il y a un cauchemar que je fais très souvent. C'est en fait, j'ai sous la peau, il y a une couche très fine de peau qui recouvre des sortes de ronds noirs qui bougent un peu, comme un peu des cafards. Et je les ai sur mes épaules, comme ça. Et je sais pas trop pourquoi. J'avais vu une explication, mais qui était un peu aléatoire, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette phobie.
Alors, est-ce que, j'ai envie de trouver, qu'on trouve des trucs. Est-ce que les cerceaux empilés au gymnase?
Pas du tout.
Ah non,
c'est des ronds collés. Okay. Par exemple, je me souviens en SVT, on regardait, il y avait dans le livre, le manuel, tu sais, les trucs de chromosomes collés ou les trucs que tu vois au microscope. Et ça me...
Le corail, etc. aussi, non?
Ah ouais.
Ah, c'est marrant, ça.
Une éponge.
Non, une éponge, non, ça va parce que c'est vraiment petit. Mais une éponge au microscope, oui, je pense que
c'est... Alors, est-ce que t'as une phobie niveau insectes, animaux, enfin, ce genre de trucs? Non.
Bah, petite phobie des araignées, mais.
Petite phobie des araignées.
Mais tranquillement, quoi.
Moi, j'ai la phobie des guêpes et des frelons, figurez-vous.
Bah, Est-ce que c'est une phobie, la phobie des frelons? Enfin, j'ai l'impression que c'est instinctif.
Non, il y en a qui sont à la cool. Et il y a même des gens qui disent non, faut le laisser sur toi quand il est là et puis il va rien se passer. Ça, c'est relou, ça.
Là, s'il y a un frelon ou une abeille, là, vous voyez sauter dans tous les sens.
Ok.
Pas tant, Mehdi. Non, je vais raconter une histoire. À l'époque, j'étais en fait de 2010 à 2015, j'étais donc photographe pour un magazine à New York, magazine de mode. Et en fait, je travaillais avec des groupes de musique à travers le monde, un peu partout et tout. Et un jour, je suis avec Sony, un des gars de Sony, pour signer un contrat avec son label pour plusieurs artistes. Et on est à la terrasse d'un café. Et il y avait un truc très sérieux où je devais signer un contrat avec Sony et tout. Et il y a un frelon qui arrive sur mon verre. Et il y a ce truc instinctif où genre je me lève pendant qu'il me parlait de trucs très sérieux. Et tu sais, moi j'avais un personnage un peu genre, j'essayais d'être un peu charismatique. Et là d'un coup tu te lèves et en fait tu te rassois et il y a ce truc où bah tu perds tout ton charisme d'un coup, quoi, tu vois. Et ça c'était assez terrible. Mais dis, est-ce que t'as une phobie?
Bah franchement non.
Ah t'as rien toi?
Ah moi je suis un bad boy.
Sarah.
Moi les insectes.
Les insectes
araignées cafard, tout ça, quoi.
Ouais, bon, ouais.
C'est la base, classique.
Ouais, c'est la base, oui. Effectivement, comme on dit, c'est la base. Autre info pour toi qui va te régaler, Anaïde. Ça te régale pour l'instant, les infos, là?
Tout me régale.
Sur les tics et tout. Alors, Midsommar est un film américain, et pourtant, il n'y a qu'un seul acteur américain dans le film, William Jackson Harper. Jack Raynor est irlandais, Florence Pugh est anglaise, Will Poulter est également anglais, et tous les autres acteurs qui composent la secte sont également anglais, suédois ou encore hongrois. Histoire aussi que j'aime bien, celle de Florence Pugh qui, après le film, a dit que c'était hyper dur de laisser ce personnage parce qu'elle s'est hyper investie pour ce film. Et le personnage est profondément triste, c'est-à-dire qu'elle perd sa famille, après elle vit un enfer dans la secte, etc. Donc elle a beaucoup, beaucoup travaillé, toi qui as adoré Florence Pugh, elle a beaucoup travaillé pour créer ce personnage méga triste et méga dépressif. Et quand le film s'est terminé, elle a dû enchaîner sur d'autres projets. Et elle a dit en interview, c'est la première fois que ça m'arrive, j'étais triste de laisser ce personnage, comme si j'abandonnais ce personnage, comme si ce personnage existait vraiment. Et que là, je la laissais comme ça en galère et que je passais à autre chose. Donc il y a vraiment un truc introspectif assez fou d'actrice. Est-ce que tu arrives à comprendre ce truc, toi, Anaïde?
Je pense que là, on parle d'un personnage qui est d'une intensité folle. Moi, de septembre à janvier, donc pendant 4 mois, j'ai interprété un personnage. J'ai interprété Alexa Laroche-Joubert, donc qui existe. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé énormément. J'ai été plongée dans sa vie pendant 6 mois parce que j'avais 2 mois de préparation. Et c'est vrai que, alors, j'ai pas eu du mal, moi, dans mon corps et dans ma psychologie, à sortir du personnage. Par contre, j'étais très triste de me dire que j'allais plus la jouer et de me dire que j'avais plus d'intérêt à la regarder en interview et tout. Parce qu'il y a comme une sorte de sentiment un peu qui ressemble un peu à de l'amour, tu vois. T'as vraiment envie d'être avec le personnage, de le regarder, de l'aimer, parce que pour le jouer, il faut pouvoir l'aimer. Donc oui, je peux comprendre. Après, je sais pas si elle parlait du fait aussi de s'en détacher physiquement.
C'est surtout
un truc que j'ai pas.
Mais du coup, ça m'intéresse. Tu vas jouer dans un film où tu joues la vie d'Alexia Laroche-Joubert. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était entre autres la directrice de la Starac quand ça cartonnait au début des années 2000. Qui a, si je dis pas de bêtises, quand même pas mal changé le cours de l'histoire de la télévision française en apportant
pas
mal de.
Pas que la Star, hein,
elle a
eu pas mal de trucs. Mais je crois que c'est une des personnes qui a aussi ramené la télé-réalité en France. Du coup, j'imagine que tu devais beaucoup converser avec elle pour essayer de prendre ses mimiques, connaître sa vie, tout ça.
Alors en fait, c'est une série. Alexa Laroche-Joubert est centrale, mais c'est surtout un thriller médiatique qui parle de l'arrivée de la télé-réalité en France, donc le Loft, et puis tout le scandale médiatique que ça a fait, parce que c'est la première fois qu'on voyait à la télé, pas les élites, mais justement des personnes qu'on connaissait pas. C'est un peu l'ancêtre d'Instagram et tout, donc c'était absolument jouissif. Et c'était quoi la question ?
Non, la question c'est, est-ce que du coup tu avais des conversations avec elle pour
Oui, bien sûr, je l'ai rencontrée.
Est-ce que tu parlais comme elle ou est-ce que tu as voulu t'en détacher un
Alors,
petit peu ?
En fait, j'ai passé plusieurs castings pendant longtemps, pendant je crois un mois et demi, 2 mois, et je ne l'avais pas rencontrée parce que je n'étais pas encore prise. Par contre, j'ai bouffé de ces interviews à tire-larigot, et en fait, souvent on me dit ça doit être dur de faire un personnage qui a déjà existé, et pour moi, pas du tout, parce que je pense que j'ai vraiment une facilité pour prendre les mimiques et pas simplement imiter. Je suis en train de dire que je joue très bien.
C'est aussi pour ça que tu t'es fait connaître sur Insta.
Voilà,
c'est
exactement.
Tu
j'ai vraiment
des
une passion et moi, ça me mâche le travail d'avoir un modèle. Et après, vraiment de l'interpréter à ma manière. Mais oui, le fait d'avoir un modèle, de pouvoir m'appuyer sur des vidéos, ça m'a permis de choper sa voix, de choper la façon dont elle se tient, la façon dont elle marche, la façon dont elle rigole. Donc c'était absolument jouissif.
Et est-ce que quand on joue un personnage comme ça, là dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il faut l'aval d'Alexia Laroche-Joubert en mode « Ok, je veux bien qu'elle me joue » quoi ?
Alors en fait, cette série, elle a été écrite il y a 10 ans. Elle a été écrite par Nicolas Combla et Mathieu Rumani, qui ont notamment écrit Family Business. Et en fait, ils l'avaient écrit il y a très longtemps, et c'était du coup sur ce thriller médiatique avec Alexa Laroche-Joubert. Et il n'y a pas longtemps, elle s'est rajoutée à la production, parce que je pense qu'elle a dû dire « J'aime bien que vous écriviez quelque chose sur moi, mais je veux en être aussi. » Donc ça m'a permis de la rencontrer et d'échanger avec elle. Voilà.
Mais en fait, je trouve ça pas mal parce que finalement, ça n'a jamais été abordé en fiction, ça, l'arrivée de la télé-réalité en France.
C'est super intéressant.
Pas mal. Ça sort quand ?
Ça sort, je pense, fin 2024, je pense, en septembre, octobre.
Ça ressemble à de la promo, alors que c'était pas du tout de la promo.
Ouais,
hein,
c'était pas du tout
oui,
de la promo.
Oui, c'est arrivé sur le tas, comme
ouais,
ça.
Vraiment, ah, en plus, ça sort dans longtemps, non, ouais, donc, je suis en pré-promo.
Alors, autre info, une de mes préférées d'ailleurs. Vous connaissez tous Ariana Grande ?
Oui.
Eh bien, figurez-vous qu'il s'avère qu'Ariana Grande est une des plus grandes fans de Midsommar au monde.
Wow.
Elle adore Midsommar. Pour ses 27 ans, le thème de son annif, c'était Midsommar. Et par la suite, elle a essayé d'acheter aux enchères l'immense costume de fleurs dans lequel est enfermé Florence Pugh à la fin du film. Elle s'est faite coiffer au poteau par un autre acheteur qui a acquis le costume pour des dizaines de milliers de dollars de plus. Wow. Mais elle voulait acheter ce costume pour le mettre en vitrine comme ça dans son salon. Quoi.
Incroyable.
Grosse fan de Midsommar. Et enfin, l'info que je trouve la plus folle, pour celles et ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre qui est Mort à Venise de Visconti, sorti en 1971, vous vous souvenez tous du jeune garçon Tadzio, qui inspire l'admiration d'un vieux compositeur dans le film. Eh bien, ce jeune Tadzio, qui avait quoi, peut-être 12-13 ans dans Mort à Venise, est interprété par Bjorn Andersen. Et Bjorn Andersen, c'est le vieux qui tombe de la colline dans le film. Ce fameux vieillard qui, au moment du sacrifice, et c'est assez fou de se dire, pour ceux qui ont vu Mort à Venise, de se dire que c'est le jeune Tadzio. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour toi, Anaïde. Le dernier film que tu as vu au cinéma ?
Je crois que je n'y suis pas allée depuis un moment. Je pense que c'est Le Ravissement.
Ok, ça raconte quoi ? Herzi.
Alors, Le Ravissement, ça parle... Vous ne l'avez pas vu ?
Non,
mais j'ai très envie de le voir.
Il est incroyable. Mais alors, attends, il faut que je procède dans ma tête pour savoir si je ne vais pas faire un spoil. Ça parle d'une infirmière d'une sage-femme qui accouche des femmes du coup et qui va tomber dans une sorte de psychose par rapport au désir d'être mère. Je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est un spoil, mais c'est exceptionnel. Afsia Herzi a été nommée dans la catégorie meilleure actrice pour ce rôle. Franchement, c'est un film parfait et c'est un premier film.
Très bien. Le dernier film que tu as vu via une plateforme ?
Alors, American Fiction sur Prime que j'ai pas fini parce que je l'ai bien entamé hier mais c'est un film je sais pas si vous en avez entendu parler.
Pareil, ça raconte quoi ?
Alors, ça parle d'un écrivain noir qui écrit des romans mais qui n'arrive pas à se faire publier. Et en fait, il voit autour de lui d'autres écrivains noirs qui se font publier et leurs livres deviennent des best-sellers. Mais c'est des romans qui représentent la culture afro-américaine de façon très caricaturale et très pour donner à manger aux fantasmes des personnes blanches. Et donc, cet écrivain qui n'arrive pas à se faire publier, il va faire une sorte de blague en écrivant un livre qui répond à tous les fantasmes qu'on attend d'une personne noire. Et surprise, il va se faire publier et son livre va devenir un best-seller. Sauf qu'il est du coup dans un entre-deux où à la fois c'est pas du tout ce qu'il a envie d'écrire, mais c'est ce qui marche. Et il aimerait. Enfin, vous avez compris quoi ?
Ouais.
Voilà. Bon, je sais pas si c'est très très bien.
Non, raconté, si, c'est, mais... ça c'est un peu comme dans. On en parlait justement, Sarah, la dernière fois, dans Dream Scenario. On propose au perso de Nicolas Cage de faire des pubs. En fait, lui, il veut juste écrire un bouquin. Ouais, il veut faire son truc sur les fourmis, je crois, ou un truc comme ça.
C'est un peu la gloire ou la sincérité.
Exactement. Ça a l'air cool.
C'est avec un humour grinçant et très, très bien joué.
La dernière série que tu as regardée ?
Oh, je crois que c'était Tapis.
C'était cool,
ça
Tapis.
Ça fait longtemps.
Hein.
Ouais, c'était très, très cool.
Moi, j'ai bien aimé Tapis.
Ouais,
t'avais vu, toi aussi, Midi Tapis ?
Ouais, j'ai bien aimé aussi.
C'était cool.
C'est longtemps, alors.
Ouais,
pas tant.
Non, je l'ai pas regardé il y a très très longtemps. J'ai regardé un peu en retard. Je regarde toujours un peu en retard. Mais oui, j'ai pas beaucoup regardé de séries là. Je suis allée beaucoup au cinéma.
La dernière chanson que t'as écoutée, Anaïde ?
J'écoute tous les jours Labyrinthe. C'est mon artiste préféré de la terre entière. Je suis absolument accro à cet artiste. Je sais pas si vous connaissez.
Non.
Il a notamment fait toute la bande originale de la série Euphoria.
Oh.
Mais je connais ça avant en fait. et c'est un artiste incroyable, moi qui me met dans des. Enfin, il me fait complètement phaser quoi.
Et il y a un titre en particulier que t'écoutes ?
Everything. Now I feel like the richest man in the world, but it ain't money putting gold into my hand. Baby, don't you know it's you?
It gives me everything. Le dernier concert auquel tu as assisté ?
Alors avant-hier, je suis allée au concert de Alyosha Schneider, qui est un acteur aussi, que je suis depuis quelques temps et qui fait des musiques trop belles en français, en anglais. Je ne sais pas trop comment définir son style. Ce n'est pas de la variété française, mais...
C'est de l'horreur folk.
Ok.
le dernier livre que tu as lu
Je crois que c'est Les meufs, c'est des mecs bien, de Mourad Winter.
Dernier jeu vidéo auquel tu as joué, même si ça date.
Mario Kart.
Sur quelle console?
Mais je sais même pas quoi tu réponds. sur un truc sur avec un
support,
écran.
Ouais, c'est un support de...
une Game Boy, je sais pas comment on dit. Une PS8, je sais pas.
J'ai bien la réponse. La dernière BD ou le dernier manga que tu, as lu, si t'en lis?
Je n'en lis jamais.
Très bien. Mais,
je devrais en plus.
Alors du coup, on va aller chercher dans les souvenirs. La dernière BD que tu as lu, quand tu te rappelles de tes souvenirs d'enfance comme ça.
Titeuf.
Titeuf, tiens.
Titeuf, ouais.
Ok, d'accord. En fait, c'est marrant parce que t'as quel âge?
27,
et à chaque fois, on avait reçu Léo la dernière fois, il nous parlait de Titeuf, et c'est là qu'on comprend que c'est une génération qui n'est pas la nôtre.
Moi, Titeuf, je travaillais déjà depuis 3 ans.
Je travaillais déjà.
Moi, j'étais en mode guide du visite sexuel, j'ai tout appris dedans. Quoi.
Le dernier objet culturel que tu as acheté, alors ça peut être un t-shirt, un DVD, un vinyle, un truc, peu importe.
J'ai acheté il y a pas longtemps plein de livres de Dostoïevski en espérant les lire en 2 secondes, mais je les ai pas.
Mais tu sais que c'est trop marrant.
Pas Dostoïevski, c'est pas mal. Hein.
Ouais. Ouais. Mais tu sais que c'est marrant parce que je crois souvent des gens qui et j'en ai fait aussi partie, qui achètent du Dostoïevski ou du Tolstoï, etc. en disant tiens un jour je vais me lancer dedans, et puis c'est un peu rassurant de les avoir à la maison parce qu'on se dit ils sont là. Mais il y a des fortes chances qu'on ne les lise jamais jusqu'à la mort.
Non, jusqu'à la mort. Ouais, parce qu'en fait, j'ai tellement... Moi, je t'avoue, je lis pas énormément. C'est un regret que j'ai. Enfin, en vrai, non. C'est pas un regret.
Je faisais genre, mais en fait, je m'en bats les couilles.
En vrai, je m'en bats total. Non, mais en vrai, si, j'aimerais bien lire plus et tout. Mais non, mais en fait, ça fait plusieurs fois qu'on me dit, franchement, lis Dostoïevski, ça se lit tranquille et tout. Et bon, pour tout te dire, j'ai commencé à lire...
ça se lit tranquille.
J'ai commencé à lire les premières pages. Et il y a tellement de gens... Enfin, c'est vraiment genre Game of Thrones, quoi. T'as un milliard de personnages... Attends, je confonds pas avec Tolstoï là.
C'est
châtiments.
Non mais on connaît, c'est le genre de livre où déjà c'est des pavés et en plus d'être des pavés, c'est écrit en minuscule.
C'est tout petit.
Ouais, donc, ça vous tente, ça te tente Tomili?
Pas du tout.
Lui il va cacher son branle. Et enfin le dernier artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter.
C'est toi en vrai.
Oh, ah ouais?
Bah ouais.
Bon, je suis un artiste.
On s'est suivi cet après-midi.
Oui, c'est vrai qu'on s'est suivi cet après-midi.
Bah ouais.
C'est vrai, exact.
T'es un artiste.
Ce podcast est désormais terminé. Anaïde, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu?
Alors, en vrai, la série dont je vous ai parlé, hein, c'est mon projet qui va le sortir le plus proche. Je pense que quelques mois après septembre, donc vraiment c'est dans longtemps, va sortir une série qui s'appelle Iris, réalisée par Doria Tillier avec Denis Podalydès, Pascal Arbillot, Doria Tillier elle-même, François Morel. Une série sur Canal+, très joliment écrite. Et puis voilà, c'est déjà bien.
Alors moi j'ai une question pour toi. Ouais. Du coup tu t'es fait connaître avec des personnages sur Insta, c'est ce qui t'a permis après d'aller vers des rôles, vers le cinéma et tout. Comment t'as géré avec les abonnés de ton compte le côté transition, ou peut-être que tu vas faire moins de personnages qu'avant? Est-ce qu'ils sont en mode ok on veut des personnages, ok on accepte cette nouvelle carrière, etc. Comment t'as géré cette transition avec les abonnés?
En vrai je dirais pas que je l'ai mal géré, mais je l'ai pas du tout géré en fait. Y a juste c'est vrai que pendant 3 ans j'ai fait des vidéos, que j'ai eu beaucoup d'abonnés via ça. Maintenant j'en fais plus du tout parce que c'est pas du tout une question de maintenant je tourne, absolument pas, c'est juste que j'ai vraiment fait ces vidéos pour me faire repérer et puis surtout j'ai le goût d'écrire, et maintenant quand j'ai des idées je les mets dans des choses un peu plus longues qui pour l'instant, enfin voilà, j'aimerais réaliser et écrire.
Est-ce que t'as déjà réalisé des courts-métrages?
Non mais je vais. Enfin, je dis ça, attendez, c'est pas maintenant. Hein. Mais en tout cas, j'écris beaucoup. Et puis surtout, j'ai commencé à développer une sorte de petite phobie pour les retours instantanés qui se passent sur Instagram. C'est-à-dire le fait de faire une vidéo, de la faire en 30 secondes, de la poster, d'avoir des likes, ça m'encourageait pas à travailler en profondeur les choses parce que c'était si facile. Y avait comme une sorte un peu de... Tu sais, de truc un peu de l'enfance où on veut tout de suite être félicité. Directement, de faire un petit travail court, on me dit bravo, et tac, après il faut en refaire une autre, un peu comme un shoot de drogue, tu vois. Donc ça me mettait pas dans un bon truc. Et alors évidemment, maintenant que j'en fais plus, j'ai perdu des abonnés, mais bon, en même temps, je sais que maintenant j'ai des retours qui sont absolument différents.
Je me suis barré.
Moi je suis encore là pour 1 heure, j'ai tout mon temps, je vais te répondre avec tout le temps que je prends.
C'est à cause de la terreur nocturne, tu as cassé son rêve.
Pourquoi t'as le seum en fait?
C'est pour ça.
Rajeva. Donc voilà, mais donc j'ai maintenant des personnes qui me font des retours par rapport au film, et puis voilà, c'est absolument différent. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Non, mais en vrai, est-ce que tu étais pris dans ce truc des likes à un moment donné, genre en mode ok, bah oui, il faut que ça atteigne tant de likes, machin, si ça atteint pas ces likes-là, je suis un peu genre déprimé.
Ouais, ouais. Bah carrément, et en fait, moi je suis un peu un. Bah, comme on se disait tout à l'heure, en tant que Verseau, moi je suis un peu un. J'aime bien être un enfant dans ma chambre, tu vois. Et Instagram, ça me... enfin, c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos, parce que j'avais plein d'idées, je les faisais, je m'en fichais un peu des likes, des trucs, des machins, ça a bien pris, et après bah, t'es vite rattrapé par les algorithmes, par le fait de... Je me souviens, je faisais des vidéos parce qu'on m'avait demandé de les faire, je faisais revenir ce personnage alors que je pouvais plus me le voir, j'oubliais un autre personnage parce qu'il avait moins de likes, et je me suis dit, ouais, pas du tout quoi, c'est pas du tout ça qui me fait vibrer.
Très bien, c'est la fin de ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Anaïde.
Cool.
C'était court et cool. Nous, on se retrouve jeudi, la semaine prochaine. D'ici là, ciao tout le monde.
Ciao, ciao, merci.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.